Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « L'unité » prêché le 11 février 1962 à Jeffersonville, Indiana, USA. Merci, frère Orman, que le Seigneur te bénisse. Bonjour, mes amis. Il est agréable d'être de nouveau ici au tabernacle ce matin. Et au moment où je suis entré, je me tenais juste en arrière où j'écoutais et j'ai entendu la prophétie qui a été donnée par le moyen du parler en langue, accompagnée de l'interprétation. Et je disais aux gens dans cette pièce qui est comble elle aussi, je leur disais donc, je ne sais pas, cela fait longtemps que je n'ai pas parlé à cet homme. C'était frère Higginbotham, si je ne me trompe. Cela fait des mois que je ne lui ai même pas serré la main. Or, c'est précisément de cela que je vais parler. Il ne le savait pas. Moi-même, ça ne fait qu'un moment seulement que je sais sur quel sujet je vais parler. Et c'est précisément cela, ce qu'il a dit juste là. Nous sommes donc heureux de savoir que nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus et sous ses ailes qui protègent. Maintenant, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont debout. L'endroit est plein à craquer et nous sommes tout simplement désolés de voir cela. Alors, dès que possible, nous allons changer cela ici, un plus grand tabernacle. Maintenant, j'aimerais sans tarder donner un rapport sur Phoenix. J'étais ici samedi soir dernier et j'ai parlé sur le sujet de la communion avant le service de communion. La communion, ce n'est pas prendre du pain. Communier signifie parler à, dialoguer intimement, parler avec quelqu'un. Et maintenant, ce matin, s'il arrivait que je prenne un peu trop de temps, eh bien, que quelqu'un change de place avec ceux qui sont debout, et cela sera apprécié. Laissez-les s'asseoir pendant un petit moment. Je suis préoccupé par ce temps où nous vivons. Cela me préoccupe vraiment. Quand je vois les choses qui arrivent, que je les vois se passer, quelque chose en moi s'éveille, et je désire simplement prendre le temps qu'il me faut et essayer de... Pour le message ce matin, je vais parler sur le sujet de l'unité. Et je désire prendre mon temps et essayer de rendre cela tout aussi, d'exposer cela tout aussi parfaitement que je sache le faire. Et comme vous êtes rassemblés, je désire vos prières. Et maintenant, si vous avez une Bible et que vous aimeriez lire avec moi, je voudrais que vous preniez d'abord le premier chapitre des Hébreux. Et je désire lire les trois premiers versets du premier chapitre des Hébreux, et ensuite Genèse 1, 26 et 27 pour relier cela. Et personne ne peut dire quoi que ce soit qui mérite d'être dit, à moins que Dieu ne l'aide à le dire. Et cela est conforme au message de ce matin aussi, de l'unité des gens et de Dieu. Bon, dans les Hébreux, au premier chapitre, nous lisons ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et maintenant, dans Genèse, le premier chapitre et le 27e, 26e et 27e verset, je lis ceci. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, courbons la tête juste un instant pendant que nous prions. Et je suis sûr que dans un auditoire de cette importance, il y a de nombreuses requêtes. Donc, on va peut-être juste lever notre main vers Dieu et que celui qui a une demande fasse ainsi savoir qu'il désire des prières pour quelque chose. Que Dieu l'accorde à chacun de vous. Seigneur, nous nous sommes rassemblés sous le toit de ce tabernacle et nous sommes reconnaissants d'avoir ce toit au-dessus de nous aujourd'hui. Mais c'est dans un but plus glorieux que cela que nous sommes rassemblés. Nous considérons que nous sommes réunis sous les ailes du Tout-Puissant par la promesse de Dieu, que semblable à la poule qui protège ses poussins, il va nous protéger de tout ce que nous désirons qu'il nous protège, qu'il va planer au-dessus de nous et nous nourrir et nous donner notre pain quotidien, à la fois physiquement et spirituellement, afin que nous puissions avoir la puissance fortifiante du corps pour aller et venir sur la terre, et la puissance fortifiante du Saint-Esprit pour apporter la parole de Dieu à un peuple affamé. Puis repartir d'ici avec cela sur nos lèvres et dans nos cœurs, avec une onction d'huile si fraîche que nous pourrons parler aux autres du jour où nous vivons et de la condition du temps. Ô Dieu, nous nous en remettons pleinement à toi. Il n'y a plus d'autre endroit où quelqu'un pourrait aller. Nous nous sentons comme Pierre s'est senti ce jour-là où Jésus a dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il a dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est pourquoi nous nous réunissons en ton nom ce matin, parce que toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et nous te prions de rendre cela si réel pour chacun de nous aujourd'hui, que nos cœurs vont brûler au-dedans de nous. Nos âmes seront fortifiées, nos corps guéris, nos esprits guéris, nos âmes renouvelées, créées comme Dieu nous a voulu. Père, je te prie de fortifier ceux qui sont debout, dans les salles et le long des murs, et autour dans le vestibule. Je te prie de leur donner de la force, sachant aussi que ceci sera sur bande, que cela ira dans plusieurs nations différentes, vers les nationalités et les tribus de la terre. Et ô Dieu, nous nous en remettons entièrement à toi. Donne-nous simplement la force et la parole et l'onction, afin que cela soit exactement comme tu le voudrais pour cette heure. Nous nous remettons à toi maintenant, notre faculté auditive, notre voix, notre attention, tout ce que nous sommes, nous te le confions pour que tu puisses agir en nous. Œuvre à travers nous et manifeste ta glorieuse présence auprès de nous, car nous le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Le mot « unité » signifie « être un avec ». Unité, unie. Et maintenant, ceci est un sujet assez important, et il mérite beaucoup plus d'attention que je ne peux lui en accorder, et plus que la plupart des gens sur la terre ne pourraient lui en accorder. Toutefois, au moyen de ce que Dieu va nous donner, j'aimerais vous exprimer mon opinion là-dessus. Maintenant, dans ceci, c'est l'enseignement de la doctrine. Et pour les frères qui entendront peut-être cette bande, je veux croire que ça ne vous vexera pas, mais que cela vous fera prendre ceci très considérablement, en considération plutôt, que vous voudrez bien étudier cela en prière, soigneusement, et le peser dans la balance de la parole de Dieu, pour voir si c'est de Dieu ou non. Car je crois que c'est toujours ainsi que nous devrions faire, peser les choses avec la parole, parce que la parole est la seule chose qui pourra demeurer. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est pourquoi je crois cela, et je crois que c'est le programme de Dieu, je crois que c'est l'œuvre achevée de Dieu en parole écrite. Par conséquent, si quelque chose était contraire à cette parole, ça ne pourrait pas être Dieu ou le programme de Dieu. Je crois que c'est le programme. Or, l'Esprit de Dieu dans la parole fait vivre la parole elle-même. Elle s'exprime, elle amène la parole à la vie comme une semence. Bon, dans le jardin d'Éden, le premier homme et la première femme étaient en parfaite harmonie avec Dieu, à tel point que Dieu pouvait descendre quand il le désirait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et là, c'est l'unité parfaite. Dieu est sa création. Dieu parlant de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et ils étaient si parfaitement en harmonie avec Dieu qu'ils étaient un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. Un homme et sa famille sont un l'un avec l'autre. Une famille correcte, bonne, noble, obéissante, n'importe quelle famille. Puis s'il y a quelque chose dans la famille qui les éloigne l'un de l'autre, alors ce n'est pas bien. La famille est désunie quelque part. Ils devraient tous être un. Le père avec la mère avec le père, les enfants avec les parents avec les enfants. Tous en accord. Et chaque fois que vous verrez cela, vous verrez une très jolie image. C'est le dessein de Dieu, et comme Père suprême, son objectif était d'être un avec sa famille terrestre, Adam et Ève. Et le seul moyen par lequel il pouvait être un avec la famille, ou avec Dieu, c'était que la nature de Dieu était en eux. ainsi avec la nature de Dieu en eux, cela faisait donc l'un avec l'autre et avec Dieu, ils devenaient tous un. N'est-ce pas un beau tableau? Dieu dans sa famille, Père au-dessus de tout, suprême. Pas de mort, pas de tristesse, pas de chagrin, rien de rien, seulement la joie inexprimable. Ne jamais être malade, ne jamais avoir de chagrin. Un avec Dieu, c'est tout. Quel tableau! Parce que la nature même de Dieu était dans ces gens. Et par conséquent, ce qu'ils faisaient, ils marchaient exactement en accord avec Dieu, et Dieu étant avec eux, cela les rendait un. Maintenant, Jésus a prié dans Jean, au chapitre 17 et au verset 11, pour vous qui prenez en note ces textes d'école du dimanche, j'en ai plusieurs ce matin, Jean 17, 11, Jésus a prié pour que l'Église et lui soient un, comme lui et le Père étaient un. Pour que l'Église, nous en tant que membres du corps de Christ, qu'ensemble nous soyons un, tout comme lui et le Père sont un. Et en ce jour-là, nous allions savoir qu'il était dans le Père en lui et lui en nous, qu'ensemble nous serions un. Quelle union, quelle unité ça serait de voir Dieu dans son Église, à un point tel que chaque membre est simplement en harmonie parfaite avec l'autre et avec Dieu. C'est pour cette Église que Jésus reviendra. C'est alors que sa prière sera exaucée, que nous serons un. Et c'est la seule base de communion fraternelle que Dieu ait jamais posée pour lui-même et son Église. C'est l'unité de lui-même dans les gens. C'est la seule base de communion fraternelle. Et l'unique moyen pour vous d'avoir cette base, c'est par une union, d'être unis à lui pour toujours. Exactement comme lorsque vous vous unissez à votre mari, pour la femme, s'unir à son mari, c'est un vœu jusqu'à la mort. Bon, puis, quand vous vous unissez à Dieu, c'est pareil, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare que l'Église est unie à Christ. Et alors, si vous ne péchez jamais, vous ne faites rien de mal, vous serez éternellement unis à Dieu. Et seulement la mort peut vous éloigner de Dieu, et non pas la mort physique, mais le péché de mort. Le péché, c'est la mort, et cela vous sépare de Dieu. C'est donc la vie éternelle que d'être unis à lui dans l'esprit de sa puissance. Vous êtes éternellement unis à Dieu. Oh, je veux en venir à cela dans un instant. Unis éternellement avec le Dieu éternel, parfaitement en harmonie avec lui, parfaitement unis ensemble, une Église où tous, Dieu et son Église, sont un, tous les deux unis ensemble. Et si vous remarquez la façon dont Ève était unie à Adam, elle est devenue une partie de lui. Avez-vous remarqué que Dieu, dans Genèse 1, 27, il créa l'homme, mâle et femelle, il les créa. Or, l'homme était un, à la fois mâle et femelle, lorsqu'on en arrive au fait d'être masculin et féminin dans l'esprit. Puis, de son côté, Dieu lui a pris une côte. Avez-vous remarqué que c'est le corps qui était un produit dérivé, mais non pas l'esprit? C'est le corps de la femme qui était un produit dérivé, une fois la création achevée. Dieu a pris une côte du côté d'Adam et a fait une femme. Pas l'esprit toutefois. L'esprit faisait partie d'Adam, car il était à la fois homme et femme, spirituellement parlant, à la fois masculin et féminin. Maintenant, ne voyez-vous pas le magnifique tableau? Dans la chair, nous sommes différents. Nous sommes comme un produit dérivé, un être créé par les saints liens du mariage. Mais en esprit, nous sommes des fils et des filles, non pas un autre esprit quelconque, mais l'esprit du Dieu vivant. Nous sommes à sa ressemblance, dans son unité, à l'image parfaite du Dieu vivant, parce que nous devenons des fils et des filles. Non pas séparés, mais le même esprit, le même Dieu, la même personne, unis à l'Éternel par les liens du mariage. Voyez-vous comment Dieu a prévu cela? Que nous ne soyons pas quelqu'un de différent, mais lui. Non pas un autre être quelconque d'une certaine autre tribu, mais une véritable union et un fruit du Tout-Puissant accompli par une sainte union. Maintenant, le corps vient de la mère et du père, mais l'esprit vient de Dieu, Dieu se séparant lui-même comme Adam a été séparé. Au jour de la Pentecôte, nous voyons le Saint-Esprit, la colonne de feu qui se sépare elle-même et se pose sur chaque membre de cette Église. Dieu qui se forme de nouveau. Puis avec ce groupe de gens ensemble, ça fait quoi? Ça ramène le corps unifié du Seigneur Jésus. Ils se rassemblent. Et cette grande séparation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les différences entre les dénominations et ces choses, quel dommage, quelle honte! Unis au Dieu éternel par les liens du mariage céleste, une partie de lui, une partie de Dieu. Dans la chair, je suis devenu Branham à cause de mon père Branham. Vous êtes devenu une partie de votre père et de votre mère. Mais en esprit, en union avec Dieu, c'est une partie de Dieu que nous devenons. C'est la raison pour laquelle l'esprit ne peut pas mourir. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, selon l'image qu'il est ici sur la terre et à sa ressemblance. Non pas un être esprit, car nous aurons un corps semblable au glorieux corps de Dieu, le corps glorifié du Seigneur Jésus, ressuscité à cette image. Se rendant au tombeau de Lazare, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois en moi, non pas à moi, mais en moi, étant en lui, croyant. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, en lui croyant. Oh là là, j'espère que le Saint-Esprit vous envoie directement cela. Maintenant, vous êtes le petit troupeau. C'est pour cela que pendant la semaine, en priant et en demandant à Dieu, j'ai choisi ce texte pour vous montrer où nous en sommes. Croyant en lui. Vous ne pouvez pas croire en lui tant que vous n'êtes pas venu en lui, ou qu'il n'est pas venu en vous. À ce moment-là, vous croyez en lui. Vous avez alors la vie éternelle. Jusqu'à ce que vous receviez la vie éternelle, vous croyez à lui. Puis la vie éternelle est la vie de Dieu en vous. Alors vous croyez en lui. Vous en moi, moi en vous, pour qu'il soit un Père, comme toi et moi nous le sommes. Dieu en Christ, Christ dans l'Église, vous voyez, qu'il soit un tout comme nous le sommes. Alors comment pouvez-vous être un? Si vous demeurez en moi, mes paroles en vous, voyez, demeurez, mes paroles en vous, alors demandez ce que vous voulez, car ce n'est plus vous, c'est la parole qui est en vous. Or la parole est Dieu. Maintenant la parole de Dieu est une épée. Le chapitre 4 des Hébreux nous le dit, Hébreux 4, 12. Bon, elle est une épée, et une épée est absolument inerte si elle n'est pas maniée par une main ou une puissance. Et ça, mais il faut une main pour tenir l'épée, et c'est la main de la foi qu'il faut pour tenir cette épée-ci. Maintenant, cette main de foi, ça dépend de la force qu'elle a. Cette main de la foi peut être juste assez forte pour percer un petit trou à travers les ténèbres et dire « Je suis sauvé par la foi ». C'est une bonne entaille, cependant. Si la main qui manie cette épée n'est pas plus forte que cela, c'est tout ce qu'elle pourra entailler. Toutefois, s'il s'agit d'une main forte, elle va tailler traversant tout ce que le diable peut produire là, faisant resplendir chaque promesse de Dieu dans la puissance de sa résurrection. Si c'est une main de foi qui est forte, les jours des miracles, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, elle s'ouvre un chemin. Ça dépend de la puissance de la main derrière l'épée. Et l'épée est suffisamment tranchante. Hébreux 4 dit, c'est plus tranchant qu'une épée à deux tranchants qui coupe à la fois quand elle entre et quand elle sort. Et elle atteint même la moelle de l'os et dans les jointures, elle discerne les pensées du cœur. Cela dépasse le monde physique. Ça pénètre dans le monde spirituel et va dénicher les pensées du cœur et les révèle. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Maintenant, la parole va tailler là-dedans. Si le bras derrière elle est assez fort pour la faire pénétrer, elle va trouver sa place et découper chaque promesse et vous les donner, si seulement vous avez un bras qui est assez fort derrière cela. L'épée, prenez-la dans un bras de foi, tenez-la bien solidement, cramponnez-vous à elle et marchez face à l'ennemi. Comment cet ennemi incirconcis peut-il bien résister en présence du Dieu éternel? Vous prenez donc l'épée de la parole, et chaque promesse vous appartient. Saisissez-la dans une main de foi forte, allez de l'avant. Si vous avez besoin de guérison, découpez ça avec la parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il vous faut le salut, chaque promesse de la Bible est à vous. Ça repose là-dedans. Et Satan essaye de les cacher. Mais prenez l'épée et ouvrez-vous un chemin dans les ténèbres, jusqu'à ce que la lumière de Dieu illumine votre âme et que vous ayez la promesse. Il va le faire. Adam était une partie de, ou Ève faisait partie d'Adam. Elle était chair de sa chair et eau de ses eaux. Voilà ce qu'est l'union correcte. Voilà ce qu'est l'union correcte de l'Église. Esprit de son esprit, parole de ses paroles. Ne déviant jamais de sa parole, le vrai croyant fidèle ne fera pas de compromis sur aucune parole. Souvenez-vous qu'Ève a fait un compromis sur une parole seulement, une parole. Toutefois, le croyant fidèle ne fera pas de compromis sur aucune parole. Il va tenir l'épée de la foi avec, dans la foi plutôt, l'épée de la parole, puis réclamer chaque promesse divine que Dieu a faite. C'est ça. Ils étaient les exemples de Dieu pour nous, eux, ce que nous devrions être, immuables, sans jamais s'affaiblir. Lorsqu'ils parlaient, Dieu répondait, il veillait sur eux tous les jours. Le soir, lorsqu'ils allaient se coucher, il veillait sur eux. Pendant la journée, il les guidait, les nourrissait, les aimait. Il était en communion avec eux, continuellement, toujours. Ils étaient à l'image de Dieu, et Dieu était en eux. C'est cela qui fait la communion fraternelle. C'est cela qui fait l'union, c'est Dieu dans son Église. L'union, c'est ça. On pourrait en dire pas mal là-dessus. Il y a beaucoup de références que l'on pourrait prendre. Uni à lui, c'est la vie éternelle. Et le seul moyen possible de nous unir à lui, c'est en venant à sa parole tout entière. C'est vrai, prendre chaque promesse et les croire. Maintenant, Ève est restée unie jusqu'à ce qu'elle désobéisse à une parole ou qu'elle doute de la véracité d'une parole. Ça l'a séparée. Chaque parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Nous pouvons donc être unis en Dieu. Parce qu'avant la chute, avant qu'on ait douté de la parole, Adam et Ève étaient un exemple de ce que nous pourrions être en lui. Être unis à lui, c'est la vie. Être séparés de lui, c'est la mort. Si nous nous conformons à ses commandements, maintenant. Nous faisons des erreurs, nous le savons. Toutefois, ce n'est pas à cela que nous devons regarder. Ce ne sont pas nos erreurs qui comptent, parce que nous allons toujours les avoir. Mais vous voyez, il s'agit de se conformer à ses règles, se conformer à ce qu'il a dit de faire. Trébucher et tomber n'a strictement rien à voir avec ça. Un véritable serviteur va se relever s'il trébuche. S'il chancelle, Dieu le ramène tout droit dans le chemin, pourvu qu'il soit dans le chemin du devoir. Mais s'il a quitté le chemin du devoir, Dieu n'est pas lié à lui. Mais tant qu'il est dans le chemin du devoir, Dieu est lié à lui par une obligation, sachant qu'il n'est qu'un homme ou qu'elle n'est qu'une femme. Il est lié à cette personne tant qu'elle se trouve dans le chemin du devoir. Bon, l'Église est maintenant fiancée à Christ en vue des noces. Les noces n'ont jamais été célébrées encore, elles le seront au souper de noces de l'agneau. Nous voyons ainsi que l'Église est présentement fiancée comme un homme fiancé à sa femme. Pendant qu'ils sont fiancés, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne tout simplement toutes sortes de choses, il lui envoie des cadeaux, il s'arrange pour qu'elle se sente bien. C'est ce que Christ est en train de faire à son Église, tiens. Il nous envoie des dons de l'Esprit. Comment donc pouvez-vous être fiancé alors que vous niez l'existence de ces dons? Ce sont justement les gages d'amour. C'est le gage d'amour de Dieu à son Église. Jésus l'a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Maintenant, n'oubliez pas ces choses. L'Église doit croire chaque parole, chaque promesse, chaque iota, et réclamer cela pour elle-même, et s'exercer à cela. Si j'étais célibataire, et que j'étais fiancé à une fille, puis que je lui envoie quelque chose, une bague de fiançailles, et qu'elle ne la porte pas, en ce cas, cela montre qu'elle ne me croit pas. Elle ne veut pas être mon épouse. Et si Christ envoie à son Église les dons qu'il a promis, et qu'ils les refusent et disent « ils n'existent pas », ils ne veulent pas être l'épouse de Christ. Ils sont fiancés à un autre amoureux quelconque, et non pas à Christ, l'époux. Donc la vraie Église garde la promesse, et garde tout, et accepte les dons que Dieu leur envoie. Très bien. Maintenant, les premiers êtres humains se sont retranchés de la communion de la foi en Dieu, en ne croyant pas sa parole et en écoutant un mensonge du diable. Maintenant, c'est la première chose qui a interrompu la communion dans cette merveilleuse union. Voyez maintenant, Adam et Ève, en mesure de ne jamais mourir, en mesure de ne jamais vieillir, ne jamais être malade, de ne jamais avoir un souci, vous dites, je voudrais sûrement être comme cela. Permettez-moi de J'ai du nouveau à vous annoncer. Vous êtes dans la même situation. Dieu place cela pour chaque créature sur la terre dans la même situation. L'entente, c'était quoi? Si tu gardes mes paroles, ma parole, si tu la gardes, si tu la crois et que tu agis là-dessus. Cependant, la toute première fois où Ève n'a pas cru, qu'elle a retranché un mot de ce que Dieu avait dit, cela a rompu la communion avec cette glorieuse union. Et dès l'instant où l'Église ne croit pas à un mot quelconque de la Bible de Dieu, et qu'elle place cela ailleurs, alors ils rompent la merveilleuse communion fraternelle qui leur a été offerte et sont séparés. Aussitôt qu'elle a fait cela, la mort est entrée dans son être mortel. Non seulement son être mortel, mais son être spirituel. Elle a rompu sa relation avec Dieu à l'instant où elle n'a pas cru. Et personne ne peut croire, le voici, aucun homme, aucune femme ne peut croire le mensonge du diable tant qu'il n'a pas refusé de croire la vérité de Dieu. Personne ne peut croire le mensonge du diable avant d'avoir refusé de croire la vérité de Dieu. Ève, Adam, vous voyez donc dans quelle situation nous sommes ce matin. Maintenant, réfléchissons sérieusement, parce que nous ne pourrons plus jamais y réfléchir après, une fois que cette vie mortelle sera terminée. C'est maintenant qu'il vous faut réfléchir. Vous ne pourrez pas choisir après ceci, vous devez choisir maintenant, car ce jour-ci est celui du choix, de faire votre choix. Une seule parole maintenant, pas tout un décalogue, juste un mot. Elle a mis Dieu en doute parce que cela lui était présenté sous cette lumière-là, que cette parole était discutable. La parole de Dieu ne peut pas être mise en doute. Il voulait dire exactement ce qu'il a dit, mais elle a mis cela en doute parce que ça lui était présenté. Oh, Dieu ne voulait sûrement pas dire cela. Mais c'est bien cela qu'il voulait dire. Dieu pense vraiment chaque mot qu'il dit. Et ça n'a besoin d'aucune interprétation personnelle. C'est précisément comme il l'a dit. Bien, vous dites, au sujet de la Bible, comment savez-vous? Je crois que mon Dieu a guidé cette Bible. Il veille sur sa parole. Il savait que des athées et des incroyants allaient se lever dans les derniers jours. Il a donc veillé sur elle. Ceci est précisément comme Dieu le voulait. Elle est comme cela pour nous maintenant. Et là, nous devons la croire. Qu'un mot en soit retranché et nous perdons notre communion fraternelle. Nous nous en allons à la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu, tout comme Adam et Ève l'ont fait. Nous devons croire la vérité de Dieu. Permettez que je reprenne cela. Ne refusez pas de croire aucune parole de la Bible de Dieu. Mais ne dites pas tout simplement « Oui, je la crois ». Vous dites « Mais non, il n'y a rien en cela. Si vous la croyez, vous l'accepterez. Si vous la mettez de côté en disant « Eh bien, mon Église ne croit pas cela de cette manière », en ce cas, vous ne croyez pas que c'est la parole de Dieu. Puis vous partirez avec la même condamnation sous laquelle Ève est repartie. Vous vous êtes séparés de l'Éternel, alors que vous avez eu une chance d'être unis à lui. Maintenant, souvenez-vous que cela ne peut être mis en doute, parce que ça, c'était un mot dans la parole de Dieu. Et puis, si Dieu n'avait que quelques paroles là auxquelles les gens devaient obéir, et puis que parmi ces quelques paroles, il y en a une qui a été faussée, causant la mort, voyez les paroles que nous avons aujourd'hui. Voyez, nous devons recevoir chacune d'elles, nous y accrocher et entrer en elles comme étant des promesses de la part de Dieu. Et une vraie épouse de Dieu va faire cela, la vraie fiancée fidèle. Maintenant, j'espère que ces petites choses vont bien en profondeur là pour que l'on puisse les saisir. Quelle a été la première chose qui a amené Ève à ne pas croire la parole de Dieu? Ça a été que Satan lui a promis plus de sagesse. Tu seras sage. Maintenant, vous voyez, la race humaine est toujours en quête de quelque chose, et Ève était en quête de plus de sagesse. Maintenant, arrêtons-nous juste un instant. Aujourd'hui, le monde n'est-il pas dans cette situation-là? Ils veulent plus de sagesse, une classe meilleure, une instruction supérieure, voulant quelque chose de différent, davantage de sagesse. C'est ce qu'Ève voulait. Mais permettez-moi de rajouter ceci, c'est qu'il n'y a pas de sagesse qui puisse surpasser celle de Dieu. Toutefois, c'est sous une forme si humble que les gens passent à côté de cela. Comme je l'ai souvent dit, Satan, il brille, mais l'Évangile, lui, rayonne. Oh, il y a toute une différence entre briller et rayonner. Hollywood brille, mais l'Église rayonne de la puissance et de l'amour de Dieu. Hollywood brille,
toute une différence entre rayonner et briller. Nous ne voulons pas briller, nous voulons rayonner. Il est vraiment triste de penser ça, mais aujourd'hui, les églises essayent de s'appuyer sur leur propre sagesse, tout comme Ève a fait, parce que cela lui a été présenté, et elle a trouvé que ça avait l'air si vrai. Oh, ne manquez pas ceci. Ça avait l'air si vrai, quelque chose que l'on pouvait ajouter à ce que Dieu avait dit. C'était comme si elle avait eu quelque chose où Dieu ne lui avait pas dit précisément jusqu'où elle pouvait aller. Où Dieu ne lui avait pas donné de limite comme il en a posé pour la mer et qu'elle ne peut pas franchir parce que la lune garde cela. Elle a pensé que Satan avait du génie, comme on dit, qu'elle pourrait toujours être en union avec Dieu, être pourtant plus intelligente, qu'elle aurait une meilleure instruction. Mais Dieu lui avait assigné exactement ce qu'il lui fallait. Et il a assigné la même chose à l'Église. Il ne s'agit pas d'une affaire déformée d'un séminaire ou de dénaturé qui arrive ou qui sort d'une école biblique, mais il s'agit précisément de ce qui est écrit et ainsi dit le Seigneur. On ne peut pas changer cela. Cependant, les églises s'appuient sur leur propre sagesse. Elles pensent que c'est peut-être une... et qu'il y a quelque chose d'arrangé pour elles et que c'est trompeur. Je dois juste attendre une minute ici. Le monde entier est basé là-dessus. Toute l'économie de cette nation est basée sur une fausse conception. Je vais vous dire quelque chose de drôle sur moi-même. Ce n'est pas une farce, mais vous savez, nous aimons tous nos épouses. Du moins, nous le devrions. Et il y a quelque temps, j'étais parti dans l'Ouest, et je regardais une émission, c'était il y a longtemps, environ 3 ans. Et un matin, je me suis levé dans ma chambre, et il y avait là une télévision. Et je pensais, on dirait que le temps est mauvais. Et il m'est venu à l'idée, tiens, à 8 heures, on devrait présenter les informations. Et j'ai pris le petit manuel, ça disait que le bulletin d'information était à telle heure. J'allumais le poste pour les informations, et pendant que je les écoutais, j'ai remarqué qu'au milieu de l'émission, ils ont fait une pause pour faire de la publicité d'un certain article, un détergent quelconque. Et on disait, « Madame, vous n'avez plus besoin de laver la vaisselle. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de plonger ça dans l'eau et laisser reposer 1 minute ou 2, retirer et mettre sur l'égouttoir, le tour est joué. » J'ai pensé, de retour à la maison, je vais être un héros. J'ai pris en note le nom de ce certain produit. Je vais dire à ma femme, regarde ce que je peux faire. Je suis donc allé chercher une bouteille de ce truc de marque, une telle, et j'ai fait gicler tout ça dans l'eau. Je lui avais dit de continuer à balayer la maison. J'allais lui arranger cela. J'ai donc pris les assiettes des enfants, et j'en ai enlevé les miettes, et ainsi de suite, et avec de l'œuf collé dessus. J'ai plongé ça dans l'eau ensuite, et je les y ai laissés pour quelques minutes, puis je les ai retirés et je les ai mises là. Il y avait autant d'œufs collés dessus que lorsque je les avais mises là-dedans. Voyez, j'aurais perdu. À ce moment-là, ma femme aurait déjà perdu confiance en moi. Vous voyez? Pourquoi est-ce que la nation, pourquoi cette nation laisse-t-elle les gens être séduits? Il devrait être interdit de le dire de cette manière-là. Ça devrait être contre la loi. Au sujet de cette publicité moderne sur la cigarette, quelle honte! Pas de tout, même après avoir fumé des tonnes et toutes sortes de... Ça devrait être interdit. Qu'est-ce que ça produit? C'est trompeur. Chacune d'elles renferme la mort. La consommation de whisky renferme la mort, le viol, le meurtre, la folie dans la bouteille. Et pourtant, on nous permet de mettre ça dans nos émissions et d'en faire la réclame comme étant la sorte que grand-père buvait, jouissait davantage de la vie, certaines sortes de boissons, de bière et d'alcool. C'est quoi ça? C'est trompeur. C'est présenter quelque chose au public pour qu'il se tue avec ça. Et on nous permet de le faire. Et permettez-moi de relancer ça à nouveau. Et les églises, par un dogme d'homme, des credos d'homme, présentent aux gens une grande façade. Et ils s'y laissent prendre ce qui est la mort. Aucune église ne va purifier votre âme. Aucun credo ne peut purifier votre âme. Seulement le sang de Jésus-Christ peut purifier votre âme. C'est le remède de Dieu. C'est appuyé. C'est donc simplement faux. Mais les gens s'appuient sur l'intelligence du sage et ils meurent en faisant cela. Et aujourd'hui, les gens s'appuient sur la sagesse des credos et des dénominations et des millions se jettent dans l'abîme de l'enfer comme des cochons à l'abattoir. Quelle honte! Il nous est interdit de nous appuyer sur notre sagesse. On ne peut chercher à le faire. Vous dites, Un conseil d'hommes ne devrait-il pas être en mesure d'en dire plus là-dessus qu'une seule personne? Pas si cette seule personne dit la parole de Dieu. Une fois, il y a eu 400 prophètes qui sont venus devant deux rois, et ils s'appuyaient sur leur propre sagesse. Mais il y en a eu un qui est resté avec la parole de Dieu, et il s'est avéré qu'il avait raison, Michée. Ça dépend si c'est la parole de Dieu ou non. Tout ce qui est contraire à la parole est faux, ça finit par la mort. Aucune sagesse ne peut surpasser celle de Dieu. Il est le plus intelligent de tous, il est la fontaine, il est la seule ressource de sagesse. À part la parole de Dieu, toute parole d'homme est bêtise et mensonge, si c'est contraire à celle de Dieu. Maintenant, si la personne dit la parole de Dieu, alors ce n'est plus la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Voyez, ce n'est pas la sagesse de l'homme. Satan va vous faire toutes sortes de promesses, mais il n'a rien à vous donner parce qu'il ne possède rien, il ne possède pas de salut. Satan, c'est quoi? Tout ce qui est contraire à la parole. Il n'a pas de salut, il n'a pas de lumière. Son royaume, c'est les ténèbres et son issue, c'est la mort. Les ténèbres et la mort sont le royaume de Satan. Frère Branham, répétez-le de nouveau. Le royaume de Satan, c'est quoi? Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Maintenant, c'est tranchant, ça, mais c'est le moment de trancher, voyez? Le sarment, le cep, pour produire, il doit être émondé. C'est le moment. Tout ce qui est contraire au précepte de Dieu, à la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est quoi? Le péché, c'est quoi? La justice pervertie. La mort, c'est quoi? La vie pervertie. Le royaume de Satan, c'est quoi? Tout ce qui met quelque chose pour remplacer la parole, n'importe quoi, n'importe quel enseignement. Un seul mot, juste un mot. Vous croyez peut-être tout cela en entier. Ève a cru tout cela en entier à un mot près. Il suffisait qu'elle ne croie pas ce seul mot, c'est tout. Il suffit que vous ne croyez pas ce seul mot, rien que ça. Maintenant, examinons cela. Le seul moyen de rester en communion divine, c'était de rester fidèle à la parole de Dieu. Dieu a dit, tu feras ceci, tu ne feras pas ceci. Tu feras ceci et tu peux faire ça et faire ceci, mais ceci ne le fait pas. Or, juste un petit fragment d'un commandement auquel elle a désobéi, et ça a déclenché toute l'affaire. Quel effet cela a été la cause de chaque enfant affamé qu'il y a pu avoir dans le monde? Chaque douleur de la mort, chaque tristesse, chaque chagrin, elle l'a fait juste à ce moment-là. Comme c'est horrible de ne pas croire la parole de Dieu. Toute personne qui gémit dans les douleurs au cours de toutes les morts qui ont eu lieu ou qui auront jamais lieu, elle a fait cela juste à ce moment-là. Chaque petit enfant non marié l'a fait cela, chaque enfant né sous hors des liens du mariage. Tout péché qui ait jamais été commis, elle en a été la cause juste là, en étant tout à fait fidèle à chaque parole, sauf à un petit endroit ici. Elle raisonna, elle ne le savait pas, elle le savait, mais elle a juste, elle a été entraînée à faire quelque chose de meilleur, parce qu'on lui avait promis une meilleure classe de gens, une meilleure sagesse, d'en savoir plus là-dessus, à condition qu'elle fasse ceci. Nos prédicateurs sont mieux instruits, nous avons une classe meilleure. Il n'y a pas de meilleure classe de gens au monde que ceux qui gardent la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est la seule classe que Dieu considère. Rien qu'un petit moment, et Dieu nous laissera peut-être entrer dans ceci. Son royaume ne peut rien promettre d'autre que la mort. C'est tout ce qu'il possède. Il est l'auteur de la mort. Il peut promettre des mensonges, car il est le père des mensonges. Il ne peut pas vous donner la vie. Il ne peut pas vous donner le ciel, car il n'a pas de ciel à vous donner. Pensez-y. Un mot. Ne pas croire Dieu à cause d'une promesse du diable ou de ses manœuvres. Un mot vous envoie dans les tourments. Cela a commencé de cette manière-là. Et si Dieu, miséricordieux comme il est, allait envoyer cette masse infernale sur la terre et faire qu'il y ait des petits-enfants affamés, toutes sortes d'afflictions, et des gens souffrant de la faim et la mort sur la terre à cause d'un mot au commencement, n'aurait-il pas pu passer par-dessus cela et empêcher toute cette masse de souffrance? N'aurait-il pas pu le faire? Alors s'il n'a pas excusé un mot à ce moment-là, sachant que ceci en serait les résultats, à combien plus forte raison n'excusera-t-il pas un mot là, alors que le seul en souffrir sera l'individu, celui qui n'aura pas cru? Réfléchissez à cela, c'est quelque chose de terrible. Bon, lorsqu'Adam et Ève ont écouté le mensonge du diable. La sainte image de Dieu les a quittés. Leur communion fraternelle avec Dieu fut rompue. Leur communion d'unité avec Dieu fut rompue. Dès l'instant où ils ont écouté le mensonge du diable, cela a brisé leur communion. Et dès l'instant où vous écouterez le mensonge du diable, cela va rompre votre communion. C'est juste à cet instant-là que vous sortez de la présence de Dieu comme elle l'a fait. C'est lorsque vous avez manqué de prendre la parole de Dieu exactement comme elle est. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Nous savons tous que Dieu existe. Et si Dieu est si correct avec sa parole, et si résolu à juger les gens par sa parole, alors quelque part il doit garder une parole d'après laquelle il va juger les gens. C'est cette Bible. N'oubliez surtout pas cela. C'est d'après cette Bible que Dieu va juger les gens. Car dans Apocalypse 22, elle dit, « Celui qui retranchera un mot de ceci ou qui y ajoutera un mot. » Pas tout simplement dire, « Bien, je vais à l'église, je crois en Dieu. » Eh bien, tous les démons de l'enfer croient en lui. Chacun d'eux est religieux, chacun. Mais un mot, c'est suffisant. Ça coupe la communion juste là. La force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Et là où votre faiblesse est de ne pas croire la parole de Dieu, c'est là que vous voulez placer un nouveau maillon solide avec les autres. Si vous croyez que Jésus-Christ sauve, alors vous devez placer là un maillon qui croit qu'il guérit. Si vous croyez qu'il était, vous devez croire qu'il est. Alléluia. Si vous croyez qu'il était et que vous vous demandez s'il est, ce maillon-là va casser et vous serez perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sévère, c'est dur, mais c'est la vérité. Vous devez le croire, lui, chaque parole, tout ce qu'il a dit. Maintenant, vous dites, bon, là, frère Branham, et ces dénominations? Bien, écoutez maintenant. Si elles sont en accord avec cette parole, très bien. Mais si elles nient cette parole, alors ce n'est pas juste. C'est le diable à nouveau, voyez? Qu'en est-il de telle église? Je ne la connais, cette église-là. De tout ce que je connais, c'est cette parole. Comment donc allez-vous croire une église quand il existe 900 et quelques dénominations différentes et chacune d'elles disant, notre dénomination possède précisément la vérité? Maintenant, où est-ce que vous iriez? Il faut bien que vous ayez foi en quelque chose. Bien, dites-vous, j'ai foi dans les méthodistes, dans les baptistes, dans les presbytériens, dans les luthériens, dans ceux de la Pentecôte, dans les catholiques, quels qu'ils soient. Vous avez foi en l'organisation? Et si elle est contraire à la parole, vous êtes en train de faire la même chose qu'Ève a faite. Exactement. Vous faites précisément la même chose qu'elle a faite, prendre la parole de Dieu et en faire... Bien, il y a une meilleure classe de gens qui vient ici. C'est un plus gros édifice. Ce sont des hommes plus astucieux. Cela n'a aucun rapport. Satan était beaucoup plus astucieux qu'Ève. Elle était complètement éliminée de la scène. Mais elle n'était pas censée être astucieuse. Elle était censée être obéissante. Nous ne sommes pas censés être astucieux. Jésus a dit que les enfants de ce monde, ou que le royaume de ce monde, les enfants des ténèbres sont beaucoup plus astucieux que les enfants de la lumière. On nous compare à des brebis. Les brebis ne peuvent même pas se conduire elles-mêmes. Il leur faut un berger. Dieu ne veut pas que nous soyons astucieux. Il veut que nous nous reposions sur sa sagesse. Amen. Exactement là où il conduit. Amen. Vous voyez le tableau? Ne vous appuyez pas sur votre sagesse à vous. Proverbe 5:3, ne t'appuie pas sur ta sagesse, appuie-toi sur sa sagesse. Peu importe combien cela semble contraire, et combien ces lumières vives semblent remarquables là au dehors, n'y prêtez pas attention, appuyez-vous seulement sur sa sagesse, sur ce qu'il a dit qu'était la vérité. Maintenant, l'unité de communion a été rompue entre Dieu et ses enfants, dès l'instant où elle n'a pas cru un petit paragraphe, une petite parole de Dieu. Tous ceux qui ont saisi cela, dites Amen. L'assemblée dit Amen, de l'éditeur. Pas toute une Bible, de dire je ne crois pas la Bible du tout, j'en crois la moitié. Elle devait tout croire cela en entier. Non seulement cela, mais l'unité entre le mari et la femme a été rompue. Je ne crois pas qu'il y ait un seul mariage qui puisse être ce qu'il devrait être sans une union entre le mari et la femme et Dieu. C'est vrai. Ils vont élever des enfants dans le monde, les rendre illégitimes, leur donner les cigarettes, du whisky, jouer aux cartes devant eux, prendre de l'alcool devant eux. Peu importe combien ils sont fidèles à leur vœu de mariage, ça c'est sexuellement, c'est la chair. Mais il y a un esprit dans ça, cet esprit de papa et maman pécheurs qui s'avérera faux, peu importe combien ils font preuve de loyauté à leurs enfants. Enfin, dites-vous, je connais des hommes et des femmes qui n'étaient pas des chrétiens et qui n'ont pas montré ça à leurs enfants. Le seul fait de ne pas les avoir conduits à Christ a été la chose la plus fausse qu'ils aient jamais pu faire en plus des autres. Ne pas les conduire à Christ, voyez. Vous ne pouvez donc pas avoir une union correcte sans cela. La communion est rompue. Puis dès que la communion a été rompue entre Adam et Ève, dès que leur communion entre Dieu et eux a été rompue, leur communion fraternelle mutuelle a été coupée ensuite. Écoutez, toutes les fois qu'une église coupe sa communion pour se jeter dans une organisation, la communion fraternelle entre croyants est rompue. Nous devons croire d'un seul cœur, d'une même pensée, d'un commun accord. C'est comme ça qu'ils étaient avant même que l'union ne soit faite au jour de la Pentecôte. Un cœur, une pensée et un commun accord. Et lorsque vous envoyez une église dans une organisation, vous allez obtenir toutes sortes de factions dans ça. Parce que quelques-uns de ces enfants dans ça vont croire en Dieu, ils vont s'en tenir à ce qui est juste, et les autres suivront l'autre direction. Ainsi, vous n'avez pas de communion fraternelle du tout. En effet. Quoi ? Sa pensée a changé. Oh oui, sa pensée a changé. Sa communion avec son mari n'était pas comme il fallait qu'elle soit. Ils ont commencé à refiler la responsabilité à l'autre. Voyez, sa pensée a vraiment été changée. Pourquoi? Elle avait la vie du diable en elle, précisément. Aussitôt qu'elle n'a pas cru la parole de Dieu, elle a accepté la vie du diable, car elle a accepté son enseignement. Je peux insister très lourdement juste ici, mais c'est sur borne. Je suis sûr que vous, l'Église, vous comprenez. Elle n'a pas cru la parole de Dieu, et ça l'a dissociée de Dieu, parce que juste à ce moment-là, il y avait la vie du diable en elle. Elle avait cru son mensonge qui disait, le fruit est bon, et elle a pris part avec lui, c'est vrai. Je ne vais pas retenir ceci, je vais le laisser venir de toute façon. Je ne peux simplement pas l'arrêter. L'autre jour en Californie, en Arizona je veux dire, j'enseignais dans une église. Je n'ai jamais eu à reprendre quoi que ce soit de tout ce que j'ai dit sous l'inspiration. Il y a tant de prédicateurs qui sont après moi au sujet de la semence de Satan, la semence du serpent. La femme, c'était le fait de manger une pomme. Oh, ça, eh bien, Cain a pensé la même chose. Il a porté les fruits des champs, vous voyez. Il ne s'agissait pas du tout de pommes. Comment s'est-elle rendue compte qu'elle était nue? Nous avons déjà examiné ça à fond. À vrai dire, ça a été des rapports sexuels. Sûrement, ça l'a été. Elle s'est aperçue qu'elle était nue. Elle a eu un enfant par le serpent, qui n'était pas un reptile, il était le plus subtil de toutes les bêtes. Il était ce qui se rapprochait le plus d'un homme. L'homme peut trouver des singes et des chimpanzés, et ainsi de suite, mais il n'arrive pas à trouver ce lien qui rattache l'homme et la bête. Le voilà. Dieu l'a à ce point maudit qu'il ne peut plus revenir. Cela est sur lui à cause de cette méchanceté qu'il a commise. Il était la seule semence qui serait compatible. Maintenant, l'autre jour, je me tenais là, prêchant, il y avait un groupe de catholiques dans mon auditoire, et j'ai dit, vous les catholiques, qui appelez Jésus, ou plutôt qui appelez Marie, la mère de Dieu, comment Dieu peut-il avoir une mère alors qu'il est éternel? Il ne peut pas avoir de mère. Jésus n'avait même rien à voir avec Marie. Mais il n'était qu'un, elle était une incubatrice qui la couvait. C'est qu'ils ont toujours cru, et moi-même, j'avais cette idée là-dessus il y a quelques années, que l'Immaculée Conception, c'était que Dieu l'avait recouverte de son ombre et avait placé une cellule de sang à l'intérieur, mais que l'ovule venait de la femme. Si l'ovule vient de la femme, il faut qu'il vienne une sensation pour faire descendre l'ovule à travers le tube jusqu'au sein. Vous voyez ce que vous faites de Dieu? Vous l'impliquez dans un gâchis sexuel. Dieu, qui créa la cellule de sang, créa aussi l'ovule. Vous, docteur, il faut qu'il y ait les deux, le pollen mâle et femelle, c'est vrai. Bien, alors si cette femme a produit l'ovule, comment donc David pouvait-il dire « Je ne permettrai point que mon bien-aimé voie la corruption, je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour des morts ». Alors si c'est l'ovule de la femme qui était en Christ, à ce moment-là, la personne a eu quelque chose à voir avec la part qu'il a jouée dans la résurrection, tandis que c'est tout à fait complet avec Dieu. Pourquoi Dieu ressusciterait-il ce qu'il y a de sexuel venant d'une personne? Dans la résurrection, pourquoi n'a-t-il pas permis que son corps voie la corruption? Parce qu'il était saint. Et comment pouvait-il être saint s'il avait eu une conception avec Marie et que le pollen était venu de Marie, l'ovule descendant à travers le tube jusque dans le sein? Il aurait fallu une certaine sensation pour faire descendre l'ovule. Alors la femme serait... Bien, dites-vous, l'ovule reposait peut-être là. Ça n'était pas impossible. Mais en ce cas, regardez donc ce qui arrive ici. Il n'était pas entièrement Dieu alors. Il n'était pas Dieu en ce sens qu'il était humain. Mais alors, si c'est le cas, la femme a eu une part là-dedans. Et la véritable semence venant de Marie, qui est venue de sa mère et de sa mère et de sa mère, c'était quelque chose d'humain de mêler à cela avec un désir humain. Ça ne se pouvait pas, non, monsieur. Tout comme si l'on prend un aigle et qu'il pond un œuf que l'on placera sous la poule va faire éclore l'œuf, elle n'est que l'incubatrice, mais il n'y aura pas un atome de poulet dans l'aigle. Non, monsieur, vous pourriez bien attacher un chiot au-dessus d'un œuf d'oiseau, et c'est un oiseau qui en sortirait, le chiot ferait cela. C'est la chaleur du corps qui a fait éclore l'œuf. Et c'est pareil avec Jésus. Marie n'était que l'incubatrice. Dieu l'a utilisée comme il utilise n'importe quelle autre femme. Elle était vierge. Elle n'avait pas eu d'enfant. Il est venu dans un sein vierge. Mais Dieu, le Créateur, a fait l'ovule tout aussi bien que le germe. Les a créés. C'était donc effectivement l'Immaculée Conception. Bien entendu, lorsque je suis sorti, les frères m'attendaient. Ils ont dit, frère Branham, je vais vous demander quelque chose. Vous avez fait une erreur. Nous vous avons attrapé. J'ai dit, très bien, c'est ce que je veux me faire attraper. Et il a dit, vous vous êtes trompé en disant ça lorsque vous avez prêché la semence du serpent. Là, vous dites que l'ovule appartenait, que Dieu l'avait créé, l'ovule. Il se trouve qu'ici, dans la Genèse, au 3e chapitre, nous voyons que Dieu a dit à Marie, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. J'ai pensé, oh là là, de ma vie je n'ai jamais prêché quelque chose sous l'inspiration que j'ai dû reprendre, car je ne compte pas sur ma propre compréhension. Et si ma compréhension est contraire à la parole de Dieu, c'est que ma compréhension est fausse à ce moment-là. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Si ça ne l'est pas, n'y touchez pas, ce n'est pas juste. Mais là, la chose à faire, c'est de démolir ça. Dans mon cœur, j'ai dit, Père Céleste, viens-moi en aide. Je ne sais pas quoi faire ici. Cet homme a le verset, il me le montre du doigt. Je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Maintenant, le voici. Le Saint-Esprit est intervenu. Je crois que le même qui pouvait recouvrir Marie de son ombre, qui pouvait créer, il peut aussi mettre une parole dans leur bouche. Je compte sur lui tous les jours. Il ne peut dire quelque chose de contraire à sa parole. Alors, si vous dites être oin et que vous prêchez contre les vérités de Dieu, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit à ce moment-là. Parce que lorsque le Saint-Esprit vous recouvre de son ombre, il apporte la même chose car c'est la parole. Écoute, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, très bien, je vais vous demander quelque chose. La femme n'a pas d'ovule, elle n'a pas de semence. Il dit là, il n'a pas dit une ovule, il a dit ta semence, et elle n'avait pas de semence. Ça prend une union pour faire une semence. C'est vrai ça, docteur? Obligatoirement. Si vous avez tout un tas de chair à l'extérieur ici, qu'il n'y a pas de vie dans ça, et que vous le plantiez là-dehors, ça ne pousserait jamais, ça resterait là à pourrir. Et vous ne pourriez pas planter la vie sans avoir la chair. Ainsi, vous voyez donc que toute l'affaire consiste en une union. J'essaie maintenant de vous parler de Christ et de l'Église. C'est une union. Voyez, si la femme est la semence d'elle-même, elle n'a donc pas besoin du mâle. Elle peut avoir son bébé toute seule. Mais elle ne le peut pas. Elle ne peut pas avoir le bébé tant qu'elle n'a pas été avec le mâle. Parce que ça prend les deux ensemble pour faire une semence. C'est vrai. Planter une semence qui n'a pas de vie à l'intérieur. Voyez de qui va se produire. Comme ce que l'on raconte ici à propos de cette femme donnant naissance à ses chiens. Voyez, ils ne pourraient pas être vivants. Car vous voyez, le pollen n'est pas compatible. Maintenant, remarquez ceci, là. La femme n'était pas une semence. Par conséquent, il a dit, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Lui disant qu'il allait lui-même lui donner une semence. Non pas par des relations sexuellement. Il allait créer une semence en elle. Bien dites-vous, Est-ce que ça serait sa semence? Oui. Elle appartiendrait à Marie après qu'il lui ait donné. Ça, ce sont mes yeux. Il m'a donné ceci. Ce sont mes yeux à moi. Toutefois, c'est lui qui me les a donnés. Ça, c'est ma main. Il me l'a donné. Ça, c'est ma voix. Mais c'est lui qui me l'a donné. Voyez? Ça n'avait rien à voir avec Marie. Ce fut quelque chose que Dieu a fait lui-même. Ainsi, la semence qui était en elle à ce moment-là était une union issue d'un acte illégitime, ce qui est la mort. Elle était déjà enceinte de la semence du serpent, parce qu'elle avait vécu avec le... Elle se retourna et dit elle-même, le serpent m'a séduite. C'est vrai. Et aussitôt Cain a apparu. Oh, nous savons bien qu'elle a dit qu'elle a eu un enfant de la part de Dieu. Sans aucun doute, tout enfant qui vient au monde, illégitime et n'importe qui d'autre, doit venir par un acte de Dieu. Il est le seul qui puisse créer la vie. C'est vrai. Voyez, elle était déjà enceinte. Ça n'a fait que tirer au clair l'affaire de la semence du serpent. La semence qui est en toi présentement l'est par une conception, un acte défendu contre ma parole que tu as commis avec cette chose ici. Et maintenant tu as la semence du serpent. Mais je te donnerai une semence par l'immaculée conception et sa semence écrasera la tête du serpent et sa tête blessera le talon. Amen. Donnez-le tout simplement à Dieu, si c'est sa parole. Il va l'accomplir. C'est pourquoi vous devez être en union avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, après que Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Pierre a fait demi-tour et a dit « Baptisez-les au nom de Jésus-Christ », parce que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cela? Ça prend une union. Paul n'avait jamais vu Pierre, mais le même Saint-Esprit, dans la même union, gloire, lui fit dire la même chose. Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Ils dirent, nous ne savons pas s'il y en a un ou non. Il dit, comment avez-vous été baptisés? Ils dirent, du baptême de Jean. Il dit, vous devez être rebaptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'était l'union de dire la même chose? Dieu dit, et ça c'est la confession. Confesser signifie dire la même chose. Et il est le grand souverain sacrificateur de notre confession pour agir sur ce qu'il a dit. Nous disons que c'est la vérité et il agit là-dessus. Oh là là, vous y êtes. Voilà la conception. Maintenant remarquez comment a été rompue son union entre elle et son mari. Voyez, sans tarder, aussitôt que Dieu a dit, Adam, pourquoi ceci? Au lieu de défendre sa femme, il a repassé ça à sa femme. La femme que tu m'as donnée. L'union rompue, voyez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'aimer son mari et de dire la vérité, elle a menti. Elle aurait dû dire, il est innocent, c'est moi qui lui ai donné. Amen. La Bible a dit, elle en donna à son mari. Elle aurait dû dire, l'homme est innocent, je lui en ai donné et puis il a mangé. Toutefois, c'est moi qui lui en ai donné. Elle a plutôt refilé ça au serpent. Le détour le plus proche. C'est la même chose qu'ils essayent de faire aujourd'hui. Voyez, le mari et la femme, l'union rompue. Le mari et la femme, la communion fraternelle a été rompue entre eux. Leur unité a été rompue. L'unité entre eux et Dieu a été rompue. Toute l'affaire a été gâchée. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui n'a pas été cru. Oh là là, frère, oui, elle aurait dû dire la vérité. L'unité avec elle et son mari était disparue. Et l'unité avec eux et Dieu était disparue. Et la même chose arrive à toute église qui ne prend pas la parole de Dieu en entier. J'aime ça, et vous? Surveillez son premier-né, Cain, un meurtrier, un menteur, un trompeur, jaloux de son frère. Son frère a observé les commandements de Dieu, et Dieu avait fait une expiation en faisant mourir quelque chose comme offrande et en le présentant pour eux. Observez l'ignorance de cela maintenant, de Satan, qui a essayé de substituer quelque chose. La Bible dit que Dieu alla leur faire des habits de peau. Pour avoir des peaux, il a fallu que quelque chose meure. Adam essayait de se fabriquer des ceintures avec des feuilles de figuier. La vie botanique, ça n'allait pas marcher. La vie qui anime, devait mourir. Ainsi, il a tué une forme de vie inférieure en disant par cela que, un jour, ma propre vie sera donnée pour vous, la véritable vie qui va introduire cette union à nouveau. Bon, Dieu voulant, nous allons y arriver dans quelques instants. Voyez, voici la vie de l'agneau. Maintenant, vous allez enfiler ceci et cacher votre nudité. Vous ne devez pas manger de pommes. Absurdité, voyez. Mettez ces peaux autour de vous. Il a dû tuer quelque chose. Et le fils de Satan, cela n'est pas venu comme il l'aurait souhaité. Dites-le comme vous le voulez, mais c'était le fils de Satan, car la pureté d'Adam envers Dieu n'aurait pas pu donner ce genre de choses-là. Remarquez ensuite le fils de Satan qui essaye de faire une expiation, de revenir avec la même chose que la majeure partie des gens disent aujourd'hui. Une poignée de pommes et de fruits de la terre à offrir comme expiation, un antidote. Et Abel le juste, qu'est-ce qu'il a fait? De manger des pommes, il savait que ce n'était pas ça du tout. Il était le sang de sa mère et de son papa, la vie d'Adam. Par conséquent, il a apporté un agneau, tout comme Dieu avait fait. Alléluia! Il a gardé la parole de Dieu, et Caïn fut jaloux de lui. C'est pareil aujourd'hui. Entrez dans cette offrande de sang, cette parole de Dieu juste qu'elle dit précisément, ne vous en écartez pas. Beaucoup d'entre eux veulent bien croire cette offrande de sang. Bien sûr, mais mentionnez autre chose dans la parole, ils diront, oh non, ça je ne le crois pas, ah ça c'est pour un autre jour. Le même vieux démon, la même vieille ruse. Attendez qu'on en ait terminé avec cela. Remarquez, il vient directement de la même manière. Mais Caïn, dans ses façons de faire stupides, pas tellement stupides, mais astucieux dans ce qu'il faisait, s'abusa et apporta des fruits. Adam a gardé la... Abel a gardé la parole de Dieu. Il a apporté un agneau. Dieu a dit, c'est bien, Adam, tu as gardé, ou Abel, tu as gardé ma parole. Caïn, tu savais qu'il ne s'agissait pas. Est-ce que j'ai pris des feuilles de figuier comme ton père a tenté de faire? Tu as une poignée de figues, ou de raisins, ou de pommes, ou tout ce que tu as ici. Et là, ton père lui a pris des feuilles de l'arbre, essayant de faire une expiation. Et voilà que toi, tu essayes d'apporter le fruit de l'arbre? Il ne s'agissait pas de ça. C'était le sang de la vie. Oh, Dieu a fait descendre la chose. Il a dit, le voici. Et Abel a offert celui qu'il fallait. Ensuite, son frère a été jaloux de lui. Regardez ce qu'il a fait. Il a tué son frère. Dieu en a suscité un autre, comme la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Regardez, Dieu alors, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Allez, multipliez et remplissez la terre, dispersez la race humaine sur toute la surface de la terre, pour qu'ils puissent ainsi traiter avec eux individuellement jusqu'à ce qu'ils puissent les ramener ensemble. Traitant avec les gens, les individus, chaque personne, mais eux, ils ne le voulaient pas ainsi. Ne manquez pas cette révélation. Dieu, que cela arrive, puissiez-vous le voir comme je le vois présentement. Voyez, ce n'était pas cela. Dieu ne traite pas avec une personne dans un groupe. Dieu ne traite pas avec vous dans une organisation. Il traite avec vous en tant qu'individu. Un individu. Individuellement, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Collectivement, nous sommes baptisés dans le corps lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Individuellement, chacun baptisé du Saint-Esprit, Dieu traitant avec chacun. C'était ça son dessein, de les disperser sur la surface de la terre pour qu'ils puissent traiter individuellement avec eux. Mais que s'est-il passé au lieu de cela? Dieu a dû séparer la famille de Caïn de la famille de Seth. Il a renvoyé Caïn. Il les a séparés afin de pouvoir traiter avec son église. Surveillez bien, Caïn a été séparé. Surveillez-la. Dieu a séparé celui qui était d'Ève, Caïn le mauvais, de celui qui était d'Adam, Seth le saint. Oh, l'a-t-il fait? Par un acte illégitime, cette femme vivant avec quelqu'un d'autre et a eu un enfant, Dieu a séparé cet enfant et ses générations de cet homme juste et saint et ses enfants. C'est la même chose aujourd'hui, ses parents, il les trouva séparés, ils n'étaient pas dans l'unité, ils ne pouvaient pas avoir d'unité. La nuit peut-elle être en unité avec le jour? Un croyant peut-il former une unité avec un incroyant? Un homme qui croit dans toute la parole de Dieu peut-il former une unité avec ceux qui ne croient qu'une partie de la parole de Dieu? Dieu veut des gens qui se séparent. Bon, Caïn était le fils d'Ève, elle a dit « j'ai eu un fils », mais Seth était le fils d'Adam. Et Dieu les a séparés parce qu'il ne pouvait pas laisser eh bien, ils se seraient corrompus mutuellement. Les mauvais enfants de Caïn auraient corrompu les bons enfants de Seth. C'est vrai. Surveillez maintenant. Est le même vieux diable qui a persuadé Ève de ne pas croire une parole de Dieu. Elle leur a dit de se séparer l'un de l'autre et de vivre autrement. Chacun, ce même diable est venu parmi eux et les a réunis à nouveau. L'avez-vous saisi? Dites Amen si c'est le cas.
L'assemblée dit Amen, note de l'éditeur.
Il les ramena ensemble à nouveau sous une fausse union, un acte contre le plan de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment a-t-il fait cela? Les fils de Dieu, a dit la Bible, la Genèse, virent les filles des hommes. Les fils de Dieu, les enfants de Seth, ont vu les filles des hommes, les enfants de Caïn, comme elles étaient belles. Oh, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont laissés prendre par elles, et ensemble, ils sont unis à nouveau à cause de la beauté qu'elles étaient belles à voir. C'est pareil aujourd'hui. Vous y êtes, frères. Vous, pentecôtistes faibles, vous que Dieu a séparés et a envoyés pour être une interdénomination, vous ne pouvez pas former la Pentecôte en dénomination. Il vous a fait sortir pour que vous soyez son peuple. Mais vous avez vu les belles grandes églises et la théologie, vous avez acquis beaucoup de grosses écoles et des choses, et qu'avez-vous fait? À nouveau, vous avez uni le peuple de Dieu à l'organisation, chose dont le fondement même est le catholicisme. De grosses églises, belles, des gens bien habillés, le maire de la ville et tous les autres viennent, mieux habillés, mieux instruits, les théologiens brillants. Ils savent comment se présenter dans un endroit où tout le monde porte les vêtements les plus chics. Et le pasteur se tient à sa place si parfaitement. C'est quoi ça? Vous regardez là les choses que Dieu a condamnées et vous avez pris l'église pentecôtiste. Oh Dieu, que ça ne manque pas d'être sur la bande et vous l'avez unie dans une organisation. Dieu n'a jamais voulu qu'elle soit unie, il voulait qu'elle soit séparée, jamais unie avec le monde. Le même vieux diable qui a persuadé Ève de ne pas croire la parole de Dieu et lui a fait du mal, est revenu dans les parages et a pris les enfants de Seth et leur a montré ces jolies femmes de Caïn, et ils se sont unis de nouveau. Et il ne s'agissait pas d'infidèles, il ne s'agissait pas de communistes, non, non, c'était des croyants. Ils ont dit, il se pourrait peut-être que le Seigneur fasse quelque chose. Ouh, oh, ceci comme ça, ils ont pensé qu'ils faisaient ce qui était juste. Et qu'est-ce que Dieu était obligé de faire? Effacer tout ça. Il a dû effacer tout cela sous une fausse union. Il a dû envoyer un déluge et détruire tout le groupe. Le jugement a tombé à cause de cette fausse union. Le jugement a frappé l'Éden à cause d'une fausse union. Bon, le serpent avait-il une semence? Honte à vous. Une fausse union a amené le jugement sur la terre pour Ève et Adam en Éden. Et une fausse union a amené les flots du jugement de Dieu sur la terre, parce que les filles de Caïn ont flirté avec les fils de Dieu, et ils se sont laissés prendre et se sont unis de nouveau. Vous y êtes. Une fausse union. Il ne peut rien arriver. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit tout ça, tout sauf le précieux vieux Noé et sa famille. Une fois de plus après cela, ils se sont réunis après la mort de Noé et de cette famille spirituelle de Noé. Avant longtemps, les enfants des hommes ont recommencé à se regarder l'un l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, « Bon, nous ne sommes pas des infidèles, nous croyons tous en Dieu. » Ils se sont donc trouvés un type, un chef, un certain grand archevêque, répondant au nom de Nimrod. Et ils ont bâti une tour. Ils n'étaient pas des infidèles. Ils croyaient qu'il y avait un ciel, ils croyaient qu'il y avait un enfer, ils croyaient dans les jugements. Mais les enfants de Dieu avec les filles des hommes, de nouveau, et ils se sont formés une union, faussement, et ont bâti une gigantesque cathédrale, une énorme organisation, et tous les autres endroits devaient payer tribut à Babel. Et ils ont dit, je vais vous dire ce que nous pouvons faire. Nous sommes intelligents, vous savez. Où avaient-ils obtenu cette sagesse? Du diable. Précisément, ils l'ont reçu du diable, comme ce fut le cas pour Ève. Elle l'a eu du diable. Ainsi, ils ont dit, nous allons nous bâtir une organisation, nous allons plaire à Dieu, et je vais vous dire ce que l'on va faire. On va faire un petit escalier, nous allons monter et chanter, et nous donner du bon temps avec les anges, et redescendre ici et vivre à notre façon. Ce démon vit encore, voyez. C'était contre les commandements de Dieu. Ils n'ont pas gardé ces commandements. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bien, ils ont bâti une tour de Babel. Faux à nouveau. Dieu les a donc embrouillés et les a séparés. Encore une fois, Dieu a séparé, et il a envoyé le brave Abraham, le juste, et a dit, « Je vais tout simplement te prendre, je ferai de toi une nation. » Dieu l'a séparé. « Sors du milieu d'eux, Abraham, laisse tout derrière. » Et Dieu ne l'a pas béni tant qu'il n'a pas tout laissé derrière. Lot a été la dernière chose. « Sors, Abraham, sépare-toi de ces incroyants. » Puis je vais te prendre et faire de toi une nation. Je formerai un peuple qui gardera mes commandements. Je vais leur accorder une autre chance. Le bon vieil Abraham s'en alla séjourner dans un pays étranger. C'est ce que fait chaque Abraham. Il séjourne dans un pays étranger. Quoi? Croyant une promesse qui, humainement parlant, était impossible. Que pensez-vous que ces docteurs de cas modernes auraient dit ce jour-là? « Oh là là, un vieillard, âgé de 100 ans, va avoir un bébé d'une femme de 90 ans ?»« Oh, quelle affaire ridicule !» Mais Abraham a cru la parole de Dieu, et il appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'était pas. Tous ces faux baptêmes, ces fausses sensations, ces fausses affaires qui se passent aujourd'hui, dites que cela n'y est pas, croyez la parole de Dieu et continuez à avancer. Ce n'est qu'une pierre d'achoppement pour vous empêcher d'atteindre le vrai. Continuez à avancer, enfant. La parole de Dieu, Dieu garde sa parole. Ça m'est égal combien d'affaires bidons le diable peut envoyer là. Dieu a toujours une parole vraie et il la garde. Tout ce qui était contraire, Abraham l'a traité de faux. Si vous le prenez en note, Romains chapitre 4. Abraham a appelé tout ce qui était contraire à la parole de Dieu comme si ça n'était pas. C'est vrai. Il a cru en Dieu, a été fort, peu importe à quel point son corps s'affaiblissait, combien cela avait l'air impossible et que cela n'allait pas arriver. Abraham a continué à le croire. Maintenant, il n'avait pas besoin d'aller se prosterner à l'autel et de dire, si cela ne vient pas tout de suite, je ne sais si je dois le croire ou non. Abraham a tenu bon pendant 25 ans avant que ça arrive, mais c'est arrivé, ça vient toujours. Et d'Abraham est venu Isaac, d'Isaac est venu Jacob, de Jacob sont venus les patriarches, des patriarches, ils sont entrés en Égypte, et en Égypte, il s'est développé une grande nation. Puis une fois sa nation développée, sa réalisation, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu les a de nouveau séparés. L'incrédulité et la foi ne peuvent aller ensemble. Non, monsieur, il les a séparés encore une fois, pour les siens. Que leur a-t-il fait pour s'assurer qu'ils soient bien conduits? Écoute bien là. Nous n'avons plus beaucoup de temps, encore 15 minutes peut-être. Il les a conduits de près. Remarquez, il a suscité une nation, les a placés sous des tuteurs et ces choses. Ils se sont fait battre et ont pleuré et n'en finissaient plus. Toutefois, Dieu a regardé d'en haut. Il s'est souvenu de chaque promesse qu'il avait donnée à Abraham. Un jour, il a pensé, mais qu'est-ce qu'il leur a fait? Qu'est-ce qu'il a fait quand il les a séparés? Il leur a donné une loi, et il leur a donné un prophète, il leur a donné une colonne de feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh Dieu, il a mis son église en ordre, une colonne de feu, l'esprit pour les conduire, un prophète qui allait leur dire les vérités de sa parole. À ce moment-là, ils étaient prêts pour le voyage. N'est-ce pas merveilleux? Ils partirent au désert, accomplissant des signes et des prodiges, ouvrant la mer Rouge, appelant les fléaux de l'enfer sur la tête de Pharaon. Oh là là, une colonne de feu avançant devant eux. Amen, les conduisant de jour et de nuit. Alléluia, un prophète fidèle à cette parole, se tenant là, les gardant alignés. Amen. À ce moment-là, il était prêt à prendre ses enfants. C'était la toute première fois qu'ils ont été appelés une église. C'était un type de ce qu'il va faire dans les derniers jours. Nous allons en venir à cela dans un instant seulement. Il les a appelés à sortir, leur a donné une loi, leur a donné sa parole, et leur a donné un prophète, il leur a donné un signe, et il les a envoyés dans le désert. Il les a séparés du reste du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu les jolies femmes de Moab, une église tiède avec des dieux et des déesses et tout le reste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont laissés prendre par elles, ont contracté des mariages parmi eux. C'est vrai, tout à fait juste. J'imagine qu'elles étaient d'une grande beauté, ces jolies petites Moabites. J'ai une prophétie chez moi, je vais la lire un de ces jours. Et vous vous demandez pourquoi je blâme les femmes comme je le fais? Il y a 30 ans, j'ai le « ainsi dit le Seigneur ». Il y a 30 ans, quand je suis entré dans le ministère, il m'a dit que chez les femmes, la tendance deviendrait à ce point immorale et imputée dans les derniers jours, qu'elle serait ce qu'il y a de plus souillé sur la terre, précisément. Elle a commencé cela au commencement et Satan l'utilise à la fin. Et voyez ce qui arrive. Faites un examen des années passées. Il a dit, elle va continuer à se déshabiller. Et il a dit, il n'y aura qu'un tout petit groupe des élus mêmes qui sont prédestinés qui échappera à cela. Quand cette vision est venue, ça m'a inquiété. J'ai pensé, les femmes, je suis revenu à Ésaïe dans la Bible, au chapitre 5, je crois, et ça disait, le germe qui aura échappé de les filles de Sion aura de la magnificence pour l'Éternel en ce temps-là. L'autre jour, une femme m'a écrit, me posant une question, elle a dit, frère Branham, ou non, c'était un homme, un prédicateur, il est peut-être ici ce matin, il vient de l'Ohio, juste là, et il a dit, nous voulons dire la même chose que vous, mais nous avons trouvé quelque chose qui n'est pas juste sur vos bandes. Billy m'a donc apporté la lettre, il a dit, quelque chose sur vos bandes, il a dit, c'est très opposé à la parole de Dieu, frère Branham, et nous voulons dire la même chose, il a dit, j'aimerais vous posez une question, il s'agit de 1 Corinthiens, le 11e chapitre, et les questions de ce que les femmes doivent être voilées, de ce que les hommes ne doivent pas se couvrir la tête. Il a dit, nous croyons cela, les femmes ne devraient pas porter de chapeau dans l'église, et les hommes devraient enlever leur chapeau dans l'église. Il a dit, nous croyons à ces voiles sur la tête, et ainsi de suite. Et il a dit, puis une autre question, c'est que les gens viennent nous voir et disent que l'ange de l'Éternel vous dit tout. Chaque mot que vous dites, ça vient de l'ange de l'Éternel. Et frère Branham, il est tellement difficile de combattre quelque chose comme ça. Il a dit, dans mon église, il a dit, nous voulons dire la même chose. Maintenant, frère Branham, ne croyez-vous pas que vous faites légèrement erreur là? Je lui ai répondu, mon précieux frère, je ne fais pas erreur. 1 Corinthiens, le 11e chapitre, dit qu'une femme devrait avoir la tête voilée. Elle a raison de cela. Ensuite, le 15e verset dit que sa longue chevelure lui était donnée comme voile, pas un chapeau. Cet esprit catholique a dominé l'Église assez longtemps. C'est sa longue chevelure qui est son voile. La nature elle-même ne... Et voyez, la question est revenue. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a demandé, je vais l'expliquer pendant que j'y suis, il a dit, « Bien, la Bible dit qu'elle devrait se voiler à cause des anges. Qu'est-ce que les anges ont à voir avec une femme ?» J'ai dit, « Un ange, c'est quoi ?» C'est un messager. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Si un vrai messager passe par là, un ange de la part de Dieu, il vaudrait mieux que vous ayez une longue chevelure. Il va condamner la chose. C'est exact. Combien savent qu'un ange est un messager? Tout à fait juste. Un messager envoyé de Dieu va condamner cela. Ça dit, à cause des anges, il vaut mieux avoir une longue chevelure. Que ces messagers de Dieu passent par là, ils vont condamner cette chose. Oui, effectivement, parce qu'un vrai messager de Dieu, un ange est relié à Dieu et sa parole ne peut pas faillir. C'est tout à fait juste. Là, saint Paul a dit que même si un ange du ciel venait enseigner quelque chose d'autre, qu'il soit anathème. C'est vrai. Maintenant, nous voyons que c'est vrai, ça. Elle devrait avoir une longue chevelure. C'est son voile. Mais j'imagine que ces jolies femmes moabites étaient de toute beauté. Il se peut qu'elles aient été arrangées comme certaines de ces Jézabelles modernes d'aujourd'hui. Mais pas toutes les femmes, cependant. Je pense qu'une femme qui est authentique est un bijou. Que Dieu soit loué pour une vraie femme. Vous êtes les servantes de Dieu. Mais une vraie femme est comme un vrai homme. Ils vont suivre la parole de Dieu sans se soucier de ce que le diable dit ou de tout ce qui est faux. Et dire, notre pasteur a dit que c'est correct de faire ceci. Ça m'est égal ce que dit votre pasteur. Si c'est contraire à la parole de Dieu, que sa parole soit un mensonge. Et gardez la parole de Dieu. Peu m'importe de quelle dénomination il s'agit ou de qui il est, s'il a quelque chose à dire là-dessus, dites-lui d'aller voir dans la parole de Dieu. Exactement. Oh, comme nous pourrions continuer et voir Dieu les séparer. Nous devrons nous arrêter dans juste un instant. J'aimerais juste passer par-dessus des versets que j'ai ici pour me dépêcher d'arriver à la fin. Que s'est-il passé quand c'est arrivé là, la foi des femmes moabites? Dieu a dû les séparer à nouveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis Jésus est venu. C'est là que nous arrivons quelque part. Jésus est venu ensuite. L'empreinte de la personne de Dieu. La semence de la femme. conçu par Dieu lui-même. Le grand architecte s'est bâti un corps. Il n'avait pas besoin d'emprunter du bois de construction de qui que ce soit, d'une femme ou d'un homme. Il s'est bâti lui-même une maison. Oh là là! Je pense à ce jour où Étienne s'est levé et a dit, « Vous, incirconcis de cœur et d'oreille, hommes aux courraides, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Il a dit, « Salomon lui a bâti une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Mais tu as préparé un corps. » Il n'avait pas besoin d'emprunter de bois de construction nulle part. Hébreux, le 11e chapitre, je crois qu'au 2e ou 3e verset, ça dit que « Le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que les choses n'ont pas été faites de choses visibles. » Dieu a juste dit « Que cela soit, et cela a été. » Il n'a pas été obligé d'aller là-bas et de dire « Madame Lune, voudriez-vous me prêter un peu de bois? Monsieur Étoile, voudriez-vous bien me prêter un peu de calcium ?» Dieu ne fait pas ça. Il n'a pas eu besoin de dire « Marie, tu vas me prêter une ovule, je veux créer un corps pour pouvoir y demeurer. » Dieu, le Créateur, a parlé, et juste à ce moment-là, elle est devenue mère. Elle n'était pas une mère, mais elle était seulement une femme portant sa semence. C'est vrai. N'oubliez pas, elle n'était pas la mère de Jésus. C'est le monde qui dit ça. Trouvez-moi un endroit dans les Écritures où il est déjà appelé mère. Maintenant, revenez à la parole. Mère de Dieu, honte à vous, voyez. Un jour, il y a eu des gens qui lui ont dit, « Ta mère est dehors et elle te cherche. » Il a dit, « Qui est ma mère ?» Il a regardé les disciples et il a dit, « Quiconque fait la volonté de mon Père est ma mère. » Elle n'était pas sa mère, elle était une incubatrice. Dieu aurait pu utiliser autre chose, mais elle a voulu prendre ce qu'il y avait de plus bas et montrer ce qu'il pouvait faire avec ça. Susciter quelque chose, faire quelque chose à partir de rien, ça c'est Dieu. L'empreinte de sa personne est venue, Jésus. L'Immaculé, celui qui est plein de charme, le plus beau entre des mille, le lys de la vallée, la rose de Saron, oh, l'étoile du matin, qu'est-ce qu'il était? Pourquoi est-il venu? Écoutez attentivement là, pour établir à nouveau l'unité entre Dieu et l'homme. Oh, frère, le voyez-vous? Toutes leurs tours de Babel et toutes leurs autres choses n'ont pas marché en ce temps-là. Tous leurs fruits, les jardins et tout le reste ont déplu à Dieu. Ainsi Dieu est descendu et a été conçu par lui-même dans le sein d'une femme. Il s'est fait un corps et est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, ni juif, ni de nation, mais Dieu. Il n'était pas juif, il n'était pas des nations, il était Dieu. Et en tout temps, ceux des nations avaient autant de valeur pour lui. C'est seulement qu'il tentait de séparer les juifs pour faire une nation. Il a tout essayé pour amener cela, et le seul moyen possible pour lui d'établir cela, c'était de revenir à un individu comme ce qu'il était au commencement. C'est comme ça aujourd'hui. À un individu, pas à une dénomination, pas à une organisation, pas à un groupe de gens, mais à un individu. Remarquez, rétablir l'unité entre Dieu et l'homme. Il était là, le véritable sacrifice d'expiation. Brebis, bouc et le reste ne pouvaient jamais enlever le péché. Mais la vie, parce que lorsque le sacrifice est immolé, et que la vie d'un agneau, ce qu'il y a de plus innocent, cette vie ne pouvait pas revenir sur le croyant, parce qu'il était un être humain avec une âme, et la brebis n'a pas d'âme. Vous voyez, il n'y a rien que l'homme qui a une âme. Il est une forme animale, ça c'est vrai, mais il a mis une âme sur lui. C'est ce qui le rend différent des animaux. Quand il a eu une âme, il a distingué le bien du mal. Mais souvenez-vous de lorsque Dieu a créé l'homme à son image, et ensuite il est devenu une âme vivante, voyez? Il est devenu cela, distinguant le bien du mal. Bon, remarquez, mais là dans ceci, Jésus est venu, et il était Dieu. Non seulement la vie d'un autre homme pouvait-elle revenir sur un second homme, mais la vie même de Dieu, faisant de lui un enfant de Dieu, le replaçant dans la même union où il était avant la chute. Là, nous arrivons à la vraie unité. Quelqu'un m'a dit, « Frère Branham, n'es-tu pas un unitaire ?» Pas de l'organisation unitaire, mais je suis unitaire avec Christ, voyez, pas de l'organisation unitaire. Il a payé la dette du péché. Bon, pour obtenir l'unité entre Dieu et l'homme, Jésus ne pouvait pas le faire tant qu'il était ici,
dans un corps de chair. Ainsi, il a dû devenir le sacrifice d'expiation complet pour enlever la culpabilité du croyant, vous voyez, l'enlever pour que le Saint-Esprit puisse venir dans l'homme et faire que l'homme et Dieu soient une unité de nouveau. Vous voyez, il devait y avoir quelque chose pour rétablir. Maintenant, qu'est-ce qui rendait possible de rétablir? C'est lorsque les commandements de Dieu sont accomplis. Un ange pouvait-il les accomplir? Il n'a pas de sang. Dieu pouvait-il les accomplir? Il n'avait pas de sang. Et Dieu s'est fait chair et sang afin de pouvoir payer la dette correctement et enlever le péché, car c'est le seul moyen. Les tours de Babel les ont séparés sur la surface de la terre, mais tout le reste, les organisations et ces choses, avaient échoué sur toute la ligne. Ils se mêlent ensemble, le monde et tout le reste. Mais ceci allait être une séparation totale. Gloire! Je me sens religieux, là. Bien, il me semble que je pourrais prendre mon texte et me mettre à prêcher en ce moment. Je suis juste assez réchauffé pour que ça me permette de commencer ici même. Et c'est le moment de m'arrêter. Je le terminerai peut-être l'un de ces jours. Plus tard, l'unité de Dieu et de l'homme. Tous ceux qui comprennent, dites Amen. L'assemblée répond Amen, notre délégateur. Voyez, c'est le seul moyen possible pour l'homme d'être de nouveau dans son état originel. C'est que la pénalité pour le péché soit payée. La pénalité pour le péché, c'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, le jour où tu auras cette liaison, c'est le jour où tu mourras. Et lorsque c'est arrivé pour l'homme, cela a rompu sa relation, sa communion fraternelle et tout. Et ça ne pouvait plus revenir tant que cette peine n'était pas payée. Et personne n'était digne de la payer. Parce qu'avec l'être humain, c'est chacun qui est tombé, car toute créature se trouve sous l'être humain et il était déchu. Gloire! Oh là là, frère! Fermac, je ne t'avais pas vu assis là, que Dieu te bénisse. Nous croyons ceci, Fermac. Tombé sous la peine de mort. Fermac, que voici, était le pasteur au tabernacle, ici, la fois où je suis parti. Oui. Bon, encore un bon vieux baptiste. Baptiste missionnaire, en bas là-bas, qui a le Saint-Esprit, voyez. Remarquez là, devenir en unité avec Dieu. Or, quand nous voyons ceci, quand nous voyons que la pénalité doit être payée et que pas la forme de vie animale la plus évoluée est l'être humain, et l'être humain lui-même était tombé, comment donc un humain peut-il en sauver un autre? Ça prenait Dieu, et Dieu ne pouvait pas mourir en esprit. Ainsi Dieu a dû s'abaisser au-dessous des anges. Hébreux, au premier chapitre, le premier verset, il a dû s'abaisser au-dessous des anges afin de souffrir la mort, de payer la peine pour ramener l'unité entre l'homme et Dieu pour que le Saint-Esprit puisse revenir. La dette du péché a été payée. C'est ce que Jésus a dû faire pour envoyer le Saint-Esprit sur les gens, pour les unir à nouveau, comme c'était le cas dans le jardin d'Éden. La dette a été payée lorsque Jésus est mort. Ça a réglé le problème. Amen, frère. Si seulement je pouvais le faire pénétrer, voyez. La dette est payée. Alléluia à l'agneau. La dette est payée. Et tout homme et femme qui m'écoute ce matin, ou qui m'entendra par le moyen de la bande, votre pénalité est payée. Ne doutez surtout pas de la parole de Dieu à nouveau. Revenez à la parole. Ne croyez pas cela. Il était la parole. Gloire. J'ai envie de pousser des cris, c'est vrai. J'en ai envie. La peine est payée. C'est terminé. Cela n'a rien d'étonnant que les anges ont poussé des cris, ont chanté. Les hymnes du ciel ont résonné. Oui, monsieur. La brebis perdue a été trouvée. Une victime propitiatoire a été créée pour qu'il soit ramené. Les eaux de séparation, la parole de Dieu qui le lave de son iniquité, lorsque la parole est morte à ma place, est ressuscitée, est devenue prééminente dans ma vie, dans mon cœur. Amen. La pénalité est payée. C'est terminé. Nous sommes rachetés. Non pas par une église catholique, bien que le bon catholique, c'est nous, le catholique apostolique, oui monsieur. Non pas catholiques romains, avec leur dogme, par leur dogme ils nient cette parole. C'est le dogme qui compte, pas la parole. Méthodistes, baptistes, honte à vous, aimant l'iniquité plus que Dieu, aimant le plaisir, en quête du monde, des plaisirs, cochons pour l'abattoir. Le diable envoie ses instruments là pour vous faire avaler cette chose, comme Satan l'a fait dans le jardin d'Éden. Bien,
Tous nos prédicateurs sont instruits. Ils ont le doctorat de philosophie, le doctorat de droit. Ça ne signifie rien du tout. Nier cette parole, et c'est toujours l'astuce du diable. Je vous l'ai démontré par la parole ce matin. À partir de maintenant, c'est à vous de décider. Même pendant qu'ils marchaient avec Jésus, les disciples n'avaient pas d'unité. Ils n'avaient aucune unité. Non, ils se disputaient. Qui va être l'évêque après ceci? Lequel est le plus grand parmi nous? Ils ne pouvaient même pas croire Jésus. Ils n'arrivaient pas à le comprendre. Tu parles en parabole. Dis-nous ouvertement ce que tu veux dire. Il n'y avait pas d'unité entre Jésus et les disciples, ou les disciples par rapport à Jésus et les disciples entre eux. Peu importe, cela prouve bien, frère. Écoutez attentivement là, je veux que ceci s'enfonce bien profondément dans votre cœur. Voyez, Dieu a un plan. Ce qui ne fait pas partie de ce plan, peu m'importe combien il y a de la sagesse là-dessous, combien de beaux millions de dollars en édifice, combien de belles écoles de théologie, combien de saints hommes et de saints ceci, et saints, 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 ça ne change rien du tout si on nie une parole de la Bible de Dieu. C'est la vérité. Maintenant, je vous l'ai prouvé par la parole écrite de Dieu, du Nouveau à l'Ancien Testament, et si seulement vous restez avec moi pendant quelques minutes, je vais vous ramener cela à aujourd'hui. Les disciples qui ont marché main dans la main avec Jésus, ont dormi avec lui, mangé avec lui, vu ses miracles, se sont associés à lui, plus proches que tout frère pouvait l'être. Et cependant, ils ne l'avaient pas. Ils n'étaient pas en état de prêcher l'évangile. Jésus a dit, ne prêchez surtout plus, n'essayez même pas. Allez attendre là-bas dans la ville de Jérusalem. Je vais envoyer sur vous la promesse qui vous a été faite. Cela va vous unifier à ce moment-là. Maintenant, Père, je prie qu'ils soient un, tout comme toi et moi, nous sommes un. Comme mon Père m'a envoyé prêcher l'Évangile, je vous envoie. Et le Père, celui-là même qui a envoyé le Fils, est venu dans le Fils. L'unité, c'est d'être un. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si les œuvres que je fais parlent aussi fort, si vous les voyez pas, c'est que vous êtes tout à fait sourds, muets et aveugles. Oh, frère, il a dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais les signes des temps, vous ne pouvez les discerner. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Ésaïe a bien parlé de vous. Vous avez des oreilles et vous êtes sourds, que vous n'entendez pas, si sourds, des yeux et si aveugles, que vous ne voyez pas. L'apôtre Paul a bien dit, dans les derniers jours, ils auront l'apparence de la piété et renieront ce qui en fait la force. Et écriture sur écriture, ce qui allait se passer dans ces organisations dans les derniers jours, ensuite ils se demandent pourquoi je m'en prends à ce système du diable fait par l'homme. De voir ces précieux enfants être persuadés d'aller là par la ruse comme des brebis qui s'en vont à l'abattoir. Fais-les sortir, Seigneur. Oui, les disciples n'avaient aucune unité. Ils n'arrivaient pas à comprendre Jésus. Ils ont dit, ah, mais qui peut comprendre ces choses, voyez? Dieu n'était pas encore en eux. Ils étaient seulement associés en communion. Ils s'étaient seulement associés à lui. C'est comme beaucoup d'hommes bons aujourd'hui. Ils ne buvaient pas, ne mentaient pas, ne volaient pas, rien. Mais ils n'avaient pas cette unité avec Dieu. Ils n'étaient pas encore un avec Dieu. Voyez, ils ne pouvaient pas l'être. Oh, ils avaient bien fait des miracles. Ils avaient chassé des démons. L'autre jour, j'ai lu un article dans le journal là-dessus, sur le fait de chasser les démons. Les gens disent, « Oh frère, je te le dis, c'est ça, et ce n'est pas cela. Un homme qui chasse un démon tout en niant la parole de Dieu est un menteur. » Oui, monsieur, il dit chasser les démons. Ils prétendent que c'est ce qu'ils font. S'il n'est pas avec la parole de Dieu, il ne peut pas le faire. Jésus l'a dit. Bon, ensuite, la Pentecôte est arrivée. Dieu les a rendus un de nouveau. Oh là là. Là, ils ont eu l'unité avec Dieu. Dieu était en eux. Maintenant, dans les actes, si vous le prenez en note, actes 4, 32, la Bible a dit que un cœur, une âme et une pensée. Oh, frère, pourquoi? Ils avaient été ramenés à l'original, à nouveau. Il leur restait une seule chose dont ils devaient se défaire. Une vieille ville où ils avaient vécu. Un vieux corps appelé une ville ou un temple dans lequel ils avaient vécu qui devait pourrir parce qu'il faut que ça meure et que ça se corrompe. Mais en esprit et vie, et pour ce qui est du but et de la vision et tout, ils étaient un avec Dieu. Ô Adam, mes amis découragés, ne laissez pas Satan vous dire son mensonge encore une fois. Que cela n'arrive pas. Ne le laissez pas Satan vous dire que la parole ne veut pas dire exactement ce qu'elle dit. C'est vrai, la parole veut dire, je parlais sur le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, il y a une révélation de ça qui vient, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'une poignée de gens ont fait? Ils ont ramassé ça ici même, et de cela ils ont lancé une dénomination. Ils ont fait une autre tour de Babel, la même chose, ils l'ont lancé en plein dedans. Assurément, Luther a fait pareil, Wesley a fait pareil, John Smith a fait pareil, Alexander Campbell a fait pareil, la Pentecôte a fait pareil. Dieu traite avec des individus qui gardent sa parole. Le seul plan de Dieu pour amener des croyants à lui-même dans une vraie unité, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Vous dites, frère Branham, j'ai parlé en langue, j'ai poussé des cris, j'ai fait ceci. Si vous avez encore ce genre d'esprit là et renié la parole de Dieu, vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Vous n'avez pas l'esprit. Si vous restez à écouter la vérité qui est prêchée et que vous cherchez dans la Bible et voyez qu'il s'agit de la vérité et puis vous refusez de le faire, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça m'est égal combien vous parlez en langue, combien vous criez, à combien d'églises vous avez appartenu, ou combien de fois vous avez été baptisé ou tout le reste. La parole est la vérité. C'est ce qui prouve la vérité. Si vous avez toutes ces autres vérités que la parole suive, là vous savez que vous arrivez au but. Comment le Dieu même qui a écrit la Bible peut-il se retourner et substituer quelque chose d'autre à sa parole? Vous les catholiques qui dites que Pierre a été enterré dans votre église et que son esprit vous donne les droits de remettre les péchés et ces choses, comment est-ce que Pierre, un juif, a-t-il bien pu supporter qu'il y ait des idoles dans l'église? Comment Pierre a-t-il bien pu refuser de dire que le baptême du Saint-Esprit vient et il a parlé en langue et toutes ces puissantes choses qu'il a faites et se retourner et dire de prendre une petite hostie et que Dieu est dans cette hostie? Oh, c'est de l'ignorance spirituelle. Maintenant, bon, vous les protestants, pareil, vous vous avancez, serrez la main du prédicateur et dites, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Et vous retournez et vivez n'importe comment par cela. Et vous persistez à vivre avec le monde. Une autre tour de Babel. Nous arrivons maintenant à la fin. Regardez, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui va faire l'unité entre Dieu et l'homme. Allons découvrir cela maintenant. J'aimerais avoir toute votre attention pendant les 5 minutes. Ou plus qui vont suivre. Surveillez. Sous l'influence du plan du diable, l'homme a essayé d'amener l'Église dans l'unité par la dénomination. Ils ont essayé d'amener l'Église dans l'unité par l'instruction. Vous savez cela, par l'instruction, par la dénomination. Ils essayent en ce moment même, le Conseil mondial des Églises se met à essayer de nouveau de réconcilier tous les catholiques et les protestants pour qu'ils ne fassent qu'un. Qu'est-ce que c'est? Un plan du diable. Vous dites, vous êtes bigrement petit pour dire ça. Je suis rudement petit, mais la parole de mon Dieu est bien grande. Ça, je vous le dis. Les cieux et la terre passeront, mais elle ne passera pas. Ce n'est pas celui qui dit cela qui compte, mais celui qui l'a dit en premier. Je ne fais que dire ce qu'il a dit. Je confesse sa parole. C'est sous l'empire du diable. C'est prouvé dans la parole ici, en plein devant vous ce matin, que c'est du diable. Toutes ces organisations le sont. Sous le plan du diable, l'homme essaye d'amener les gens dans l'unité en formant une dénomination. Venez tous adhérer aux assemblées de Dieu. Affiliez-vous aux unitaires. Adhérez à l'église de Dieu. Affiliez-vous aux méthodistes. Nous sommes tous un. Bande d'hypocrites, ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Et la parole de Dieu est brandie devant vous, et vous avez peur de vous y attaquer. Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas alors? Si vous êtes d'accord avec Dieu, pourquoi ne faites-vous pas les œuvres de Dieu? Comment pouvez-vous avoir cette apparence, puis aller ça et là et le nier, allant jusqu'à traiter les véritables œuvres de Dieu de Belzébul? Cela vous montre tas de membres d'église instruits. Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable. C'est vrai. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Certainement. Pourquoi quelqu'un n'attaque-t-il pas cela? Vous savez que Dieu est derrière ça. Dieu va agir avec sa parole. L'homme fait cela. Il bâtit une autre tour de Babel. Qu'est-ce qu'il fait? Ils essayent de montrer. Regardez dans ce conseil mondial des églises là. L'anglican, le catholique romain, le méthodiste, le presbytérien, les pentecôtistes, et tout cela réunit la science chrétienne et plusieurs de ces sectes qui vont jusqu'à nier la naissance virginale, nier la divinité de Jésus, le faisant trois personnes, essayant d'adorer un Dieu qui est trois, niant la naissance virginale. Quelques-uns d'entre eux nient le sang, quelques-uns nient ses miracles, presque tous nient cela. Et ensuite, on essaie d'unifier ça, comment le pouvez-vous? C'est une tour faite par l'homme, ça va s'effondrer comme Babel l'a fait. Mais Dieu a dit, ni par la puissance, ni par la force, par mon esprit, dit l'Éternel. Voilà comment j'unis mon Église, ni par l'organisation, ni par l'instruction, ni par les théologiens, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je rassemblerai mes brebis. Oh là là! Et qu'arrive-t-il lorsqu'il le fait? Et ces signes rendront témoignage de la même chose. C'est ainsi qu'Israël pouvait dire, avant de se mêler à Moab, il y avait une colonne de feu au-dessus d'eux. Que fera-t-il? Il rendra témoignage, le même genre de témoignage, mais d'une fois qu'ils se sont dissociés d'avec Dieu ainsi, qu'ils ont séparé l'unité qui existait entre eux et Dieu, et ont été parmi Moab, et cela, la victoire a fait défaut, complètement. Ils sont restés 40 ans de plus dans le désert, jusqu'à ce que Dieu ait suscité un autre groupe pour y aller et achever son plan. C'est précisément ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardez. Mais lorsque Dieu rassemblera une église avec son esprit, ils auront ces signes du Dieu vivant parmi eux. Quelle sorte de signes? Lorsque Dieu a séparé Israël de l'Égypte, Dieu a donné à Moïse et Israël le signe d'une colonne de feu. C'est vrai. Un prophète. Lorsqu'il a séparé Abraham d'avec Lot, il y a eu un ange qui est venu le voir, qui pouvait les pensées, connaître les pensées, les intentions du cœur. Un signe. Alléluia. Maintenant, ces dénominations qui sont prises dans cette église, essayant de faire une unité comme en Égypte, comme là-bas en Éden, et ainsi de suite, elles sont sous cette grande influence. Mais regardez, je vais vous demander quelque chose. Quand Dieu a séparé Israël, il leur a donné un signe surnaturel, une colonne de feu. Il leur a donné un prophète. Qu'a-t-il fait Abraham? Que fait-il à chaque fois? Que l'on me montre un prophète nommé par Dieu parmi eux. Il rassemble son église à l'aide d'apôtres et de prophètes et de docteurs et d'évangélistes. Alléluia! Vous y êtes, une église encore une fois, comme il a appelé Israël à sortir. Je vous avais dit que j'étais pour y revenir, oui monsieur. Pas de prophète nommé par Dieu parmi eux, non monsieur. Comme il l'était avec Israël et cela, qu'est-ce que c'est? Une tour du diable à nouveau. Là, la venue est si imminente, la seconde venue de Jésus. Il est en train de rassembler ses élus, je le crois. Oh, ils viendront de l'est et de l'ouest. Là où se trouve le corps, les aigles se rassembleront. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Il a trouvé son unité, sa véritable unité, se montrant parmi eux, de chaque dénomination, rassemblant ses élus de toutes sortes d'églises, de partout. Il est en train de faire sortir ses enfants, se conformant précisément à sa parole. Quoi? Bon, la venue du Seigneur Jésus est si imminente, la venue du jugement. Il appelle ses élus à se rassembler dans une unité avec lui-même, avec le même genre de ministère qu'il avait. Il n'y a pas longtemps ici, vous savez comment j'ai tracé cela tout au long des âges de l'Église, sur le sujet de la grande tour qui a été bâtie appelée la pyramide, mais la pierre de fête n'avait jamais été posée dessus. Rappelez-vous comme les luthériens sont venus, puis ceux de Wesley en minorité, puis jusqu'aux pentecôtistes. Et maintenant, ce qu'il fait, il appelle à sortir de cela. Qu'a-t-il fait? Il a appelé l'élu à sortir pour former les luthériens. Des luthériens, il a appelé l'élu à sortir pour former les wesleyens. De cela, il a appelé l'élu à sortir pour former les pentecôtistes. Maintenant, il appelle les élus pentecôtistes à sortir pour former la pierre de fête et entrer dans cela un ministère exactement du même genre, descendant en plein là-dessus, appelant ses enfants à sortir de toute dénomination et de toute condition sociale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un vrai docteur avec eux, de vrais prophètes qui restent avec sa parole, la Bible. Mes brebis entendent ma voix, a dit Jésus. Si ça c'était sa voix, alors c'est sa voix maintenant. Tout ce qui est contraire à cette voix, ce n'est pas de la nourriture de brebis. Ils ne suivront pas cela. Oh frères, de l'Est, de l'Ouest, de toute dénomination, de toutes organisations, ils viennent de l'Est et de l'Ouest et se rassemblent. À la fête du roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, heureux participants de sa gloire, les joyaux de sa couronne. Jésus reviendra bientôt, alors nos peines finies. Alléluia! Et si notre Seigneur venait maintenant, pour ceux qui sont sans péché, seriez-vous dans la joie ou le chagrin, la peine? Mais quand notre Seigneur viendra dans la gloire, nous le rencontrerons dans les airs. Alléluia! Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Avec un docteur envoyé de Dieu à la vraie Église, qui va demeurer juste avec la parole, qui ne bougera pas d'un iota, peu importe ce que dit une organisation. Ils ne sont pas reliés à elle. Des prophètes, pas un semblant de foi, soi-disant, mais un authentique prophète, avec le « ainsi dit le Seigneur ». Il tombe pile à chaque fois. C'est ce qu'il a envoyé dans son Église. C'est ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il croit la parole, pas le credo, pas le dogme, mais la parole. Et en faisant ça, il se montre en eux, en confirmant sa parole, faisant revivre la même vie qu'il a déjà vécue, accomplissant sa parole. Oh là là. Écoutez attentivement. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, dit « Le royaume de Dieu consiste en sa parole devenue puissance. » Si vous voulez le prendre en note. 1 Corinthiens 4, 20 « Le royaume de Dieu est la parole de Dieu devenue puissance. » Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est à l'intérieur de vous. Le royaume est en vous. Et quand la parole entre là-dedans, qu'est-ce que cette parole se met à faire? Elle se change en puissance, lui faisant dire exactement ce qu'elle dit, c'est tout. Vous ne pouvez pas dire « elle dit ceci » et « elle dit ceci » et faire que ça marche. Vous devez dire la même chose qu'elle dit. Ça fait une confession, non pas de dire « bien, c'est raffiné ça, j'aurai plus de sagesse, j'aurai une meilleure réputation de ce côté-ci ». Restez avec la parole, voilà, c'est ça. Et ça en fait une puissance. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Jean 14, 12, Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. » Non, pardonnez-moi, ce n'est pas ce qu'il a dit là. Il a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » Qu'est-ce que c'est? Vous devez vous aligner avec la parole, vous éliminer. Mes amis, je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ont reçu le Saint-Esprit, mais nous avons reçu juste assez de Saint-Esprit en nous pour nous amener à un endroit où nous ne voulons pas mentir, nous ne voulons pas voler, nous ne voulons pas faire quoi que ce soit. Toutefois, Dieu veut remplir chaque fibre de son Église. Il veut remplir votre pensée et il veut remplir votre esprit. Il veut vous remplir en entier, vous rendre si complètement, totalement mort à vous-même ou à vos opinions, simplement s'y abandonner en Dieu, que sa parole vit directement à travers vous. Vous ne connaissez rien d'autre que la parole de Dieu. Demeurez juste avec sa parole. Elle est vie. Mes paroles sont vie, a dit Jésus. Avec eux, il a placé des docteurs croyant la Bible, des prophètes qui disent la vérité, disant, montrant la même prophétie qu'ils n'ont cessé de montrer au cours des âges. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se montre vivant parmi eux, confirmant sa parole. Sa parole, le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu devenue puissance. Tandis que ces dénominations comptent sur les raisonnements humains, écoutez bien là, nous ne devons pas compter sur les raisonnements humains. Le troisième chapitre, le cinquième verset des Proverbes dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, voyez. Ne le faites pas, peu importe à quoi la parole de Dieu ressemble. Vous dites, enfin, ça a l'air d'être tout aussi bien de cette façon-ci. Ce n'est pas ce qu'elle est, c'est la parole de Dieu. Prenez-la comme il l'a dite. Ève a dit, Satan a dit à Ève, je sais bien que Dieu a dit ça, mais ça ne veut pas vraiment dire cela, ça signifie ceci. Puis elle l'a cru, cela a rompu l'unité, cela a rompu la communion, cela a rompu l'union, cela a disloqué le monde, ça a détérioré la vie, ça a tout brisé. Et la personne qui ne croit pas à un mot de la parole de Dieu, cela rompt la communion et tout, c'est vrai. Ou nous la croyons, ou nous ne la croyons pas. Restons donc avec elle. Dieu l'a dit, et restons donc avec cela. Je dois passer par-dessus beaucoup de choses ici, car notre temps est déjà écoulé. Comme dans le passé autrefois, quand l'homme a fait ceci, cela a amené le jugement de Dieu sur le monde. La tour de Babel, l'union des enfants de Caïn avec les enfants de Seth, ont amené le jugement. Ça amène toujours le jugement de Dieu sur le monde, voyez. Oh, la véritable unité avec lui se lèvera dans le jugement, au-dessus de cela, comme l'a fait Noé avec sa famille dans ce jugement-là. Noé le juste et sa famille ont passé au-dessus des jugements. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Frère Livel, si tu te procures ceci, eh bien voilà, c'est la seule question sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. Il croit que l'Église subira le jugement. Je ne saisis pas, je ne crois pas ça. Noé n'a pas subi de jugement du tout. Il est passé au-dessus des jugements. Abraham n'a jamais subi le feu. Il était à l'écart du feu. Israël n'était pas dans les jugements d'Israël. Il était séparé à l'écart du feu, à l'écart des jugements. L'Église va voguer au-dessus du jugement, dans l'arche du Saint-Esprit, soulevée de terre. Cette affaire de Conseil mondial des Églises n'est rien d'autre au monde que les vierges folles qui font du bruit. Elles resteront ici sur la terre pour être ramassées par l'Antichrist. Mais la vraie Église de Dieu va flotter comme le vieux Noé l'a fait et poursuivra son chemin jusque dans la gloire, tout aussi sûr que je me tiens ici. Voilà pourquoi il les rassemble. Voilà ce que la voix annonce aujourd'hui. Voilà ce que Dieu est en train de faire, en train d'en rassembler un venant de Los Angeles et un venant de Philadelphie, et un venant de la Géorgie, et ainsi de suite. Il les rassemble. Son peuple qui est prêt à croire la parole du Dieu vivant. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avenue du Fils de l'homme, où ces quelques-uns ont été sauvés, juste quelques-uns seulement. Très bien. Notre arche du Saint-Esprit va flotter juste au-dessus des jugements de Dieu. Car nous sommes déjà jugés, alors que nous confessons Jésus et il a pris notre jugement. Ces dénominations, cependant, elles sont si obstinées. Elles ressemblent à Ève. Elle voulait sa sagesse, sans se soucier de ce qu'était la parole de Dieu. Nimrod voulait quand même sa tour, écriture ou pas. Ils étaient obstinés. Ève savait mieux. Seth savait mieux que de se laisser prendre par ces jolies femmes. Israël savait mieux que de s'en aller là dans cet adultère. Et vous aussi. Mais quelques-uns sont tellement obstinés, que ce soit avec ou sans l'écriture. Que Dieu soit béni, ma mère était presbytérienne, je vais aussi en être un. Continuez, continuez, c'est tout ce que vous pouvez faire à ce moment-là. Que Dieu ait pitié de votre âme pécheresse. Comment allez-vous y échapper alors que vous savez que c'est la vérité? Et si vous voyez la parole de Dieu et que vous ne pensez toujours pas que c'est la vérité, en ce cas, il y a quelque chose qui cloche dans votre discernement spirituel. C'est tout à fait juste. Regardez d'un côté à l'autre de la nation et voyez où ces choses se passent. Nous sommes à la fin des temps, mes amis. Est-ce que nous avons parcouru les âges de l'Église? Est-ce que l'on sait ce qui va arriver dans l'âge de l'Église de l'Odyssée? Ne venons-nous pas juste de finir ça? Voyez ce que je veux dire? Nous sommes à la fin des temps. Dieu est en train de rassembler l'élu des quatre vents de la terre. Il a dit qu'il allait envoyer des anges et les rassembler. Est-ce vrai? Les rassembler. Les séparer de l'ivraie. Amen. L'ivraie sera brûlée, pas le blé, c'est vrai. Mais elles sont si entêtées, elles vont l'avoir de toute façon, peu importe. Oh, mais les élus de Dieu ont reçu l'ordre de sortir du milieu d'eux. Séparez-vous, dit Dieu, et je vous accueillerai. Ne touchez pas à leurs choses du monde, et je serai pour vous un père
ou Dieu, et vous serez pour moi des fils et des filles.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, mais sortez de cela. Dieu veut une séparation d'avec le monde. Il veut être en union avec vous, lui-même. Et il n'y a pas de projet d'organisation, de dénomination ou de théorie faite par l'homme qui pourront jamais résister. Ça va prendre Dieu, le Saint-Esprit en vous, pour vous unir à Dieu. Et comment savez-vous que vous l'avez? Le Saint-Esprit qui a écrit la parole rendra témoignage de chaque parole, et le Saint-Esprit fera dans le Nouveau Testament les mêmes choses qu'il a faites dans l'Ancien Testament. Il fera précisément la même chose en ce moment, parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous n'êtes pas placé sous le joug avec les organisations et le monde. Vous n'êtes pas sous le joug avec eux. Ne vous mettez pas sous un joug avec eux, mais sortez du milieu d'eux. Vous êtes placés sous le joug avec Christ. Amen. Unis au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aurait des églises comme une autre tour de Babel. Elles auraient l'apparence de la piété et allaient nier la parole et la puissance de Dieu, la puissance de sa parole. Et la parole, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est quoi? Il nous faut appartenir au royaume avant même de pouvoir être sujet du roi. Combien savent cela? Dites Amen.
L'assemblée dit Amen de l'éditeur.
Eh bien, comment entrez-vous dans le royaume? Le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'est reconstituée en puissance. Amen. Elle est devenue puissance, enlevant le péché, donnant des signes. Quelle sorte de signes? S'il s'agit de la même parole qui a fait sortir Moïse, elle produira le même signe, la même chose qui a séparé Lot le tiède. Bon, nous savons que Lot était tiède, et Jésus a dit que ça serait le signe de la fin des temps. Lot le tiède était là-bas, il était religieux, bien sûr, lui et sa femme, puis il était membre de toutes sortes de partis, il était maire de la ville, et oh, il se passait pas mal de choses, il était très religieux. Et il ne pouvait recevoir les évangélistes et tous ceux qui venaient par là, car, et pour ça il était très bien. Mais oh frère, il n'était pas cet élu. Regardez ce qui est arrivé. Pourquoi le même Dieu qui est venu à Abraham l'a séparé et lui a montré ce qui confirmait sa séparation. Oh Dieu, comme j'aimerais pouvoir, si seulement je pouvais faire quelque chose pour vous le faire voir. Dieu a montré à Abraham, vu qu'il s'était séparé, il lui a montré la confirmation de cela, de ce qu'il était avec lui au milieu d'eux-mêmes. Et Jésus a dit que la même chose arriverait dans les derniers jours. Abraham n'était pas une nation, il était en minorité, toutefois Dieu était avec lui. Il l'avait séparé en ce temps-là. Nous sommes censés nous séparer dans ces derniers jours. Or, si Dieu a donné un signe à Moïse, à Israël, un prophète oint, une colonne de feu, il a donné un signe à Abraham. Il a donné un signe à Israël, il a donné un signe aux disciples, le même signe à chaque fois, le même signe, une colonne de feu. Paul, lorsqu'il se dirigeait vers Damas, il y a eu une colonne de feu qui a resplendi devant lui, qui l'a aveuglé même, elle a fait tomber sur ses genoux. Personne d'autre ne l'a vu. Ils étaient tous autour, ils ne l'ont pas vu. Et une voix dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Seigneur, qui es-tu » Il a dit, « Je suis Jésus. » Un signe. Et qui était-il? Un apôtre pour ceux des nations. Amen. Nous voici à la fin des temps, venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Que faisons-nous? Nous nous préparons pour cet enlèvement. Nous nous tenons tranquilles pendant quelques instants, jusqu'à ce que chaque fibre soit remplie du Saint-Esprit. À ce moment-là, elle va monter. Oh là là, il mobilise son peuple pour qu'il vienne à lui, dans la véritable unité avec lui-même, parce qu'il s'agit de son Saint-Esprit qui est un. Nous sommes tous, individuellement, baptisés dans un seul corps, collectivement, le corps de Jésus-Christ. Et vivant dans notre chair, avec son esprit, Jésus-Christ est en train de servir l'Église et de faire les mêmes choses qu'il a faites comme signe, comme bannière pour le monde de ce que nous sommes dans les derniers jours, nous préparant pour l'enlèvement. Oh, je l'aime, pas vous? Il me reste encore un livre ici, mais je ne peux plus continuer, il se fait trop tard. Nous le reprendrons peut-être une autre fois.
Nous sommes à la fin.
L'unité. Êtes-vous un avec Dieu à ce point? Il va falloir que vous soyez comme cela, oui. Il faudra que vous soyez un avec lui au point où ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puis Christ, sa propre pensée en vous, va reconnaître chaque parole qu'il a écrite. Elle l'a fait dans les apôtres, répartissant correctement les Écritures qui sont la vérité, vous voyez, le Saint-Esprit. Si c'est bien la vérité, alors il en rendra témoignage en produisant le même signe qu'il a donné à Moïse, le même signe qu'il a donné à Abraham, le même signe qu'il a accompli par Christ, le même signe qu'il a accompli par Paul. Nous sommes à la fin des temps. Il a dit que cela arriverait. Nous sommes à la fin des temps. Collectivement, l'Église se rassemble dans une union, un ici, un là, en train de se former. Il a dit, de deux hommes qui seront dans un champ, j'en prendrai un. Un. Regardez, deux dans un champ, ça c'est pendant la journée, la moisson. J'en prendrai un et j'en laisserai un. Il y aura deux personnes dans un même lit de l'autre côté du monde. J'en prendrai un et j'en laisserai un à la venue du Fils de l'homme. Et c'est tellement imminent, c'est si proche. Ne le faites pas, ne le faites surtout pas, Adam. Adam, Ève, Adam, laissez-moi vous le crier bien fort. N'écoutez plus un mensonge du diable. Restez avec la parole de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. Restez avec sa parole. Le fait de vous en séparer, c'est rompre votre communion avec Dieu. L'unité de Dieu par le Saint-Esprit. Puis si vous dites avoir le Saint-Esprit et que ça ne coïncide pas avec la parole, vous n'êtes pas en unité avec Dieu alors. La grande unité de Dieu, c'est ceci. Lorsque l'Esprit que vous avez coïncide avec cette parole et manifeste cette parole et fait de cette parole une puissance pour agir comme elle l'a fait là. Disons-le tous ensemble.
L'Assemblée répète après frère Branham de l'éditeur.
L'unité avec Dieu, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en vous, s'accordant avec la parole, toute la parole en entier, et de la faire se manifester en puissance. Vous y êtes, ça c'est l'unité avec Dieu. Lorsque cette puissance œuvre en moi, œuvre en vous, nous sommes un, amen. Frère Kidd, quand la puissance du Saint-Esprit en moi œuvre en toi, il n'y a pas de désaccord. La parole est là, ça marche, amen. Cela fait devenir ce qu'elle est. Dieu fait chair en vous par sa parole. La parole fait puissance parmi nous, chaque parole. Et là, ne l'oubliez pas, le diable prend une bonne portion de cette parole, à peu près 99,99% de celle-ci. 99 centièmes et 99% de ces centièmes, il va rendre cela tout à fait juste. Mais ensuite, il va sauter ici. Et c'est celle-là qui provoque la mort, juste là. Ça casse la chaîne en plein milieu, et voilà que vous tombez. Chaque parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ce n'est pas de quelques-unes des paroles de Dieu qu'il vivra. Non pas de 99,99% de la parole de Dieu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra de cela. Satan l'a fait monter là et a dit, il est écrit. Voyez? Tout comme il a dit à Ève, il est écrit, il est écrit. Jésus a dit, et il est aussi écrit. Il a dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. La Bible dit, oh, quel érudit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, et ils te porteront. Il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ils ont dit, nous avons le verset des Écritures, acte 19, nous avons été baptisés par Jean. Paul avait quelque chose d'autre, il a dit, cela ne marche plus, voyez. Jean baptisait seulement. Il ne refusait pas de croire ce que Jean avait dit. Il a dit, je vais vous dire ce que Jean a dit. Jean a dit qu'il baptisait pour la repentance, non pas pour le pardon des péchés. Le sacrifice n'avait pas encore été mis à mort, voyez. Il a dit, il a baptisé pour la repentance, disant que vous deviez croire à celui qui devait venir. Puis, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, tellement rempli de la parole, leur a imposé les mains, et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils se sont mis à prophétiser, à parler en langue, à glorifier Dieu. Et quel moment, oh là là! Il s'agissait d'une église de combien? 12.
Oui.
Oh, ce n'est pas dans les grandes foules que Dieu fait quelque chose. Il le fait dans des cœurs honnêtes. Ayons un cœur comme cela. L'aimez-vous? Prions. Oh, bien-aimée personne errante, avez-vous jeté un coup d'œil aux filles de Moab? Ou, et je m'adresse aux églises, avez-vous vu les filles de Caïn? Comme elles se sont beaucoup écartées de la parole? Mon précieux ami, avez-vous remarqué que ces choses se sont accomplies dans les derniers jours? Est-ce que vous avez remarqué dernièrement combien la parole de Dieu se manifeste? Combien le réveil qui a déjà frappé s'est calmé, qu'il n'en reste pas grand-chose? Qu'est-ce que c'est? C'est le calme précédant la tempête. Les jugements sont prêts. Avez-vous marqué ces choses? Avez-vous comparé les Écritures entre elles? Les paroles de la Bible entre elles? Les évidences entre elles? Avez-vous comparé les paroles de Jésus? Que dans les derniers jours a-t-il dit, le diable, ça serait si près, semblable à la vraie chose, au point de séduire s'il était possible tout le monde, sauf l'élu, ceux qui sont élus? Imaginez donc. Cet enseignement scripturaire sera si ressemblant. Oh, nous croyons au Saint-Esprit, que Dieu soit béni à jamais. Nous avons le Saint-Esprit, nous parlons en langue. Et puis faire volte-face et nier la parole? Oui, voyez, séduira même l'élu s'il était possible. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas en ordre avec Dieu, s'il y a quelqu'un ici qui est malade ou affligé, il y a des mouchoirs et des choses posées ici, je vais prier sur cela. Peu m'importe quel est votre besoin. Chaque promesse du livre vous appartient. C'est à vous. Maintenant, je vous ai apporté la parole. Je l'ai apportée de la Genèse à ce jour où nous vivons. Complètement, trouvant simplement les endroits et vous les montrant. J'aurais pu trouver des centaines d'endroits en plus de cela. Je n'en ai pas le temps. Mais sûrement que dans cela, vous pouvez voir que c'est faux, cette affaire de dénomination. C'est une fausse conception du diable, essayant d'organiser les hommes par l'unité de leur propre esprit et pensée, alors que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes unis à Dieu, ne faisant qu'un. Et le Saint-Esprit est d'accord avec la parole de Dieu. Voyez, la Bible a dit, Jésus a dit qu'ils iraient jusqu'à confesser cela, voyez, séduire même les élus s'il était possible. Vous voyez où nous en sommes? Prenez maintenant cette parole de Dieu dans cette main de foi. De quoi avez-vous besoin ce matin? Vous avez besoin du baptême dans le nom de Jésus-Christ? Le bassin est prêt. Il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Il cherche avec insistance à entrer en vous. Vous avez besoin de guérison? Eh bien, le Saint-Esprit lui-même, la parole qui est devenue puissance, est présentement ici même, la puissance de discernement même, portant son regard sur cet auditoire ici maintenant, et voyant cette lumière tournoyant comme une lueur. Vous ai-je déjà dit quelque chose de faux?
L'assemblée répond, non, notre éditeur.
L'ai-je déjà fait? Comme le prophète l'a dit à Israël, avant qu'il ne leur donne un roi formé par l'homme, il a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose? Est-il déjà arrivé que je prenne votre argent? Est-il déjà arrivé que je vienne vous mendier, que j'aille ici et là, puis que je vive dans des immenses palais, et que je bâtisse des choses gigantesques, et que je vous arrache votre argent? Est-ce que je vous ai déjà demandé un sou? Jamais. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur que Dieu n'ait fait s'accomplir? Ai-je déjà parlé en son nom et qu'il n'en ait pas été ainsi? Est-il déjà arrivé que je révèle une vision à l'auditoire sans que cela ne soit tout à fait exact, que la personne ne se soit levée à un visiteur ou autre et qu'elle n'ait dit c'est la vérité? Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose de faux?
L'assemblée dit non, non de l'éditeur.
Bon, maintenant permettez-moi de vous dire, ainsi dit le Seigneur, recevez le Saint-Esprit, l'Esprit qui va prendre la parole de Dieu dans ses mains de foi s'avancera là-bas. Tout le royaume vous appartient, il est à vous, enfants. Pourquoi donc venez-vous de la Géorgie, de par le pays, de l'Ohio, du Kansas, de partout pour une petite réunion? Je pense qu'on a arrêté l'enregistrement maintenant. Je peux donc dire ceci, voyez. Pourquoi est-ce que vous venez comme ça? Qu'est-ce qui vous le fait faire? C'est quoi? Je vois ici des gens venant de l'Arkansas, de centaines de milles de distance. Hier soir, arrivant même de Kansas City, un petit frère polonais s'est tenu ici. Il est venu, a été conduit, il a dit, frère Branham, depuis la première fois où j'ai entendu parler de vous là-bas au Canada, il y a plusieurs années, les choses que vous avez vues et que vous avez faites, j'ai vérifié ça d'un bout à l'autre dans tous les sens possibles. Il a dit, il n'y a jamais eu une seule de ces choses qui ait été fausse. C'est probablement un Polonais catholique. Et voilà qu'il vient ici, il prend les bandes, il va les faire jouer au dehors, rencontrant de l'opposition. Des prédicateurs qui devraient être avec moi et en train de nous aider, mais niant ce qui en fait la force, niant la vérité de la parole, et déclarant avoir le Saint-Esprit. Je ne me suis pas déclaré prophète, c'est vous qui l'avez déclaré. Toutefois, si c'est le cas, d'où est-ce que vient la parole du Seigneur alors? Comment savons-nous si c'est vrai ou non, à moins que quelque chose ne soit là pour l'appuyer? Ici, c'est la parole de Dieu, la parole écrite. Et alors, si la parole écrite est appuyée, eh bien, c'est Dieu, dans cette parole, qui la rend vraie. Paul a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Maintenant, si vous avez besoin de Dieu pour la maladie, le salut, vous débarrasser de quelques-unes d'entre vous, les femmes, qui n'avaient pas la grâce suffisante pour vous laisser pousser les cheveux. Certains d'entre vous, les hommes, qui n'ont pas assez de grâce pour arrêter de fumer la cigarette. Certains d'entre vous, les prédicateurs, qui n'ont pas suffisamment de grâce pour accepter la vérité du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns de vous, les gens malades, qui souffrez de maladies mortelles. Pourquoi ne prenez-vous pas cette parole ce matin? Je vous le dis maintenant, elle est chère parmi nous. Prenez cette parole dans votre main. Il y a une photographie de l'ange de l'Éternel accrochée au mur ici. Le même qui a conduit les enfants d'Israël, le même qui a rencontré Paul, le même qui était en Christ, et le même Saint-Esprit est en vous, vous unissant comme ne faisant plus qu'un. Qu'est-ce qui fait que nos cœurs sont attirés ensemble depuis des centaines de mille? Il n'y a rien de semblable dans le pays. Ils viennent à la parole. Il y a une fontaine remplie de sang. Tiré des veines d'Emmanuel, où les incroyants, se plongeant sous ce flot, perdent toute marque de culpabilité. Depuis que par la foi, j'ai vu ruisseler le sang de tes blessures. Notre Père Céleste, il y a ici un paquet de mouchoirs, de gants. Ils seront peut-être envoyés par la poste. Je ne sais pas qui les a posés ici. C'est peut-être Billy, peut-être les gens ici dans l'auditoire. J'ai simplement envie de faire ceci maintenant, Seigneur. Rien n'est entre mes mains, rien en moi en tant qu'être humain. Je ne pourrais pas compter sur ma propre sagesse humaine. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais je suis ce que tu as dit. Ils ont pris des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul, et les esprits malins sortaient des gens. Ce n'était pas parce qu'il était un grand homme, c'était que Dieu était avec lui en parole et en puissance. Et il n'avait jamais consulté les apôtres. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés, il a découvert que le même évangile, la même forme de baptême, tout ce qu'il faisait, c'était exactement pareil. Maintenant, Seigneur, pour ces précieuses personnes qui croient en toi, je te demande de les guérir. Ceux-là dans l'auditoire, guéris-les, Seigneur. Que leur foi puisse simplement monter et s'emparer de cette parole en ce moment même et dire, tumeur, maladie, mal, tu ferais aussi bien de partir. Je fais une incision avec l'épée de Dieu. Je crois. Ma foi est forte. Et j'enfonce bien l'épée. Ôte-toi de mon chemin. Je me lève pour être guéri. J'impose les mains à mon père, à ma sœur, et à mon enfant, à mon voisin. Je crois. Ta parole est la vérité. Je suis en unité avec toi. Les œuvres que tu as dit avoir faites, nous les faisons aussi. Seigneur Dieu, je crois chaque parole. Et je m'avance. Je m'avance pour réclamer cela, pour prendre cela ce matin. Ô mon Dieu, comme je pourrais penser à l'Église quand elle était en marche, quand Moïse a eu un peu peur là-bas près de la mer, il s'est mis à crier à l'Éternel, et l'Éternel a dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle et avance. Ne t'ai-je pas chargé de faire le travail? Parle. Dire quoi? La parole de Dieu qui est en vous. Parle et allez de l'avant. Ne criez pas à moi, allez de l'avant. Et Seigneur Dieu, je viens aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Je viens en maniant cette épée de la foi, réclamant l'unité de Dieu et de l'homme par le Saint-Esprit, par les miséricordes et le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils. Je défie chaque démon qui, de quelque manière que ce soit, a lié quelqu'un dans ce bâtiment, qu'il s'agisse d'un garçon, d'une fille, d'un homme ou d'une femme. Je défie toute maladie, je défie tout doute, je défie toute crainte. Je défie tout ce qui est impie. Quitte cet auditoire. au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de cet auditoire, que nous puissions être un avec Dieu, et que nous puissions servir Dieu sans avoir la maladie ou la crainte. Que la puissance qui nous a rendus un avec Dieu, comment ce diable peut-il venir pousser des cris près des oins? Comment ce diable peut-il se tenir là et se faire entendre comme un Goliath? Lorsque David est entré dans le campement, et il a dit, vous voulez dire que vous laissez ce Philistin, cet incirconcis, se tenir là et insulter l'armée du Dieu vivant? Ô mon Dieu, fais que des hommes et des femmes se lèvent dans la puissance de l'Esprit, que cet inconverti, ce méprisable démon qui au fil des âges a fait du mal à la race humaine, il se tient ici et insulte l'Église du Dieu vivant. Sors, Satan, et va-t'en au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous qui avez assez de force pour manier une épée, à présent que vous comprenez assez la parole de Dieu pour la déclarer votre propriété personnelle, vous qui maintenant pouvez prendre la parole de Dieu dans votre main, tenez-la bien dans une main de foi, puis dites, je me range du côté du Seigneur. Désormais, je formerai une unité avec mon Dieu. Je vais manier cette épée de l'Esprit dans cette parole et je vais en donner des coups au diable jusqu'à ce que chaque promesse que Dieu m'a faite. Si vous croyez ça de tout votre cœur, alors sincèrement, de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ, je vous demande de vous lever et de l'accepter. Êtes-vous sérieux? Êtes-vous sincère? La parole est-elle dans vos mains? Est-ce que votre main, c'est votre foi? Levez votre main naturelle vers Dieu. Dites, ô mon Dieu, par ceci, par ma main levée, j'engage ma vie entière. Je promets mon âme, je promets ma pensée, je promets tout à la parole de Dieu. Laisse à présent le Saint-Esprit prendre ma foi et me donner la chose. Découpe tous les doutes et éloigne-les de moi. Puis par la foi, je reçois la promesse que j'ai demandée pour ce moment. Si vous le croyez, dites « Amen » là. L'assemblée dit « Amen » de l'éditeur. Encore « Amen ». Amen et « Amen » et « Amen ». Alors si vous le voulez de tout votre cœur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous promets ce que vous avez demandé. Amen. Croyez-le de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Frère Neville.